Quoi?
Avec Oasis,
ouais.
Vous emmène sur une autre planète.
Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette première nuit des jeux vidéo, une nuit qui se déroule en direct depuis le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Au cours de cette nuit, vous allez pouvoir rencontrer les créateurs de jeux vidéo, les scénaristes, les musiciens, les graphistes et les journalistes qui font l'actualité du jeu vidéo. Ce sont eux les véritables vedettes de la soirée, eux que vous allez rencontrer. Et puis, je voudrais remercier en particulier quelqu'un qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. C'est un honneur et c'est également une grande preuve d'amitié. Il s'agit de Monsieur Pierre Tchernia, que je vous demande d'applaudir. Cette nuit sera organisée autour de deux grands thèmes. Le premier, c'est la remise, bien sûr, des Tilts d'or et des consoles plus d'or. Les Tilts d'or récompensent les meilleurs jeux 1993 sur micro-ordinateur, les consoles plus d'or, les meilleurs jeux sur console. Et puis, le deuxième grand thème de cette soirée, ce sera un débat. Un débat qui permettra de répondre, je l'espère, à un certain nombre de questions. Est-ce que la création française a une place dans le monde? Est-ce que les jeux vidéo, la création de jeux vidéo en France permet de créer des débouchés, créer des métiers de scénaristes, de musiciens, de graphistes? Et puis, la question bien sûr cruciale, est-ce que les jeux vidéo rendent malades? Pas du tout, pas du tout. Pourquoi les jeux vidéo donc remportent-ils un tel succès? Et bien sûr, vous qui êtes ce soir avec nous dans la salle, vous pourrez poser des questions et également intervenir, présenter vos produits, dire qui vous êtes et ce que vous faites. Vous aurez également tout au long de la nuit la possibilité de découvrir l'histoire des jeux vidéo, une histoire en trois volets. Le premier volet, c'est les premiers jeux vidéo 1973-1980. Deuxième volet, les grands classiques, l'invention du shoot 'em up, du beat 'em all, du... Jérôme, tu as vraiment envie d'intervenir, mais ça n'est pas maintenant. Et puis le troisième volet, qui permettra de faire un point sur l'état de l'art aujourd'hui et vous montrera des jeux que vous ne connaissez peut-être pas encore. Au cours de cette nuit des jeux vidéo, il y aura également un championnat qui va se dérouler sur le jeu Keter et qui oppose 8 candidats juniors et 8 candidats seniors. D'ailleurs, à ce propos, il semblerait qu'il y ait un certain nombre de candidats seniors qui ont été appelés tout à l'heure et qui se sont lâchement désistés, qui sont retournés s'asseoir, et il serait bon qu'ils aillent à l'intérieur se qualifier, en tout cas s'ils veulent participer et gagner un téléviseur 16 neuvième et un CDI. Bonjour, comment tu t'appelles?
Antoine.
Antoine, tu as quel âge?
12 ans.
12 ans, et tu connais bien les jeux vidéo?
Oui, assez.
Tu vas jouer sur le jeu Keter, est-ce que tu es prêt? Et voilà, c'est parti. Nous avons sélectionné, bien sûr, certaines séquences du jeu Keter, des séquences d'action. Le but du jeu, c'est d'éviter le maximum d'astéroïdes et de récupérer des pulsars. Les pulsars, ce sont des boules vertes qui apparaissent et qui redonnent de l'énergie. Les astéroïdes se ruent sur vos pauvres candidats, qui est extrêmement concentré. Dernier astéroïde, non, il en reste encore une troisième salve, le score s'affichera à la fin du jeu. Oh là là. C'était quand même très très bien joué. On va voir le score qui s'affiche. On peut applaudir, vraiment, oui, bravo. Bravo. Voilà le vaisseau qui atteint le temple. Et le score qui s'affiche dans quelques secondes. Un score qui va s'afficher en points d'énergie, en pulsar. Voilà, 80 points d'énergie, 18 chocs, 13 pulsars. Ça me semble un score très appréciable. On peut l'applaudir. On retrouvera tout au long de la soirée nos candidats. Vous savez que France 3 était la première chaîne qui permette à ses téléspectateurs de jouer en même temps que les candidats qui étaient sur le plateau. Ça a commencé avec, bien sûr, Karen Cheryl et Hugo Délire. Ça a enchaîné avec le Quizaco. Et maintenant, c'est la carte multipoint. La carte multipoint qui permet donc de jouer en même temps. Et pour tous ceux qui sont devant leur poste de télévision ce soir, vous allez pouvoir jouer avec votre carte multipoint, du moins si vous chargez la mire que nous vous envoyons. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas la carte multipoint, il y a une cassette vidéo que je vous recommande chaudement, qui existe, qui explique tout, qui permet de gagner des points, de gagner des cadeaux, et puis un numéro de téléphone, le 36 68 68 23. Quant à nous, on découvre tout de suite la première partie de l'histoire des jeux vidéo. Impossible d'expliquer l'homme sans les dinosaures, impossible d'écrire une histoire des jeux vidéo sans remonter à la préhistoire des jeux vidéo. Ce fut une ère de noir et blanc, comme au cinéma. De petits rectangles blancs avaient la lourde responsabilité de symboliser tout un univers de jeux et d'exploits. L'inventeur des jeux vidéo s'appelle Nolan Bushnell. Pong fut son premier titre qu'il installa sans trop y croire dans le snack le plus proche de chez lui. 24 heures après, coup de téléphone, le jeu ne marchait plus. Panique, retour de la machine, diagnostic, il y avait tellement d'argent dedans que le système était bloqué. C'était parti, on était en 1972. Suivront tennis, football, pelote basque. Il fallait beaucoup d'imagination pour les distinguer les uns des autres, mais le public en redemandait. Atari, la firme créée par Nolan Bushnell, embaucha deux ingénieurs prometteurs, messieurs Jobs et Wozniak. Ceux-ci resteront dans l'histoire avec un grand H, ils sont les inventeurs de Breakout. Il s'agissait, toujours avec la raquette rectangulaire héritée de Pong, de casser consciencieusement un mur de briques. Le jeu eut tellement de succès que Jobs et Wozniak purent s'établir à leur compte et créer une PME qu'ils appelèrent Apple. Du coup, sur l'Apple II de Jobs et Wozniak, de jeunes Américains se mirent à créer tous azimuts. Decathlon proposait déjà une représentation plus réaliste du sport et permit accessoirement à une autre petite PME d'accéder à une certaine notoriété sous le nom de Microsoft. Cela dit, la vague des jeux vidéo ne commença réellement à déferler qu'avec la conquête des étoiles. Space Invaders envahit les cafés européens vers 1978. Suivi de Galaxian, qui donnait plus de mobilité au vaisseau du joueur. Defender était encore plus compliqué. La scène présente à l'écran n'est qu'un détail d'un monde plus grand, dont la carte complète est particulièrement lisible, elle est en haut de l'écran en bandeau, permet à coup sûr de se repérer. Enfin, c'est ce qu'écrivent les journalistes spécialisés à l'époque. Passons sur Astéroïde, qui demandait aux joueurs de pulvériser des astres rocheux qui menaçaient de faire éclater son vaisseau en mille morceaux, et retrouvons Zaxxon, qui pour la première fois dans l'histoire des jeux vidéo proposait une représentation convenable des trois dimensions. Révolutionnaire. Si la science-fiction était bien la principale source d'inspiration de la fin des années 70, elle n'était pas la seule. Pac-Man proposait d'animer un être imaginaire, petit disque vorace, qui livrait un combat sans merci et plein de ruses à des fantômes. Le succès fut énorme. En France, un livre de plus de 100 pages d'astuces voyait le jour. Les Américains, eux, créaient le Pac-Man Memorial Day pour célébrer correctement leur héros national.
Des créatures étranges comme Pac-Man aux vrais animaux, il n'y avait qu'un pas, il fut vite franchi. Pingo mettait en scène un pingouin, roi de la glissade de blocs de glace, pour se jouer de ses ennemis. Centipède, lui, avait recours aux propriétés géométriques du mille-pattes. Quant à Frogger, il proposait d'aider une grenouille à traverser des chemins lourds de dangers mortels. Et soudain, patatrac, Mario fut. Il commença petit, second rôle d'un jeu nommé Donkey Kong, dans lequel un singe lui lançait des projectiles, et il faillit bien ne pas survivre au procès qu'une grande firme de cinéma fit à l'inventeur du jeu, une société du nom de Nintendo, qui, jusqu'alors, fabriquait des cartes à jouer. Nintendo gagna le procès, vous connaissez la suite. Les jeux de plateforme étaient nés, ils devinrent un genre à part entière avec un premier classique sur micro-ordinateur nommé Lode Runner. Au début des années 80, la préhistoire était terminée, du noir et blanc on était passé à la couleur, des salles d'arcade à la console et au micro-ordinateur, simulations sportives, combats spatiaux, animaux transformés en héros, jeux de plateforme, tout était inventé. Les années 80 pouvaient commencer.
Voilà, on retrouvera donc l'histoire des jeux vidéo tout à l'heure avec des titres comme Karateka, comme Golden Axe, Sky Fox, sans oublier bien sûr Mario et Sonic et Zelda. Mais pour l'instant, le gros moment est arrivé, le moment de la remise des tilts d'or. Les tilts d'or sont des prix qui sont remis par un jury composé de journalistes spécialisés. Ces journalistes se réunissent, délibèrent pendant de longues heures, ça discute ferme, et puis finalement, on arrive à élire trois lauréats. Trois lauréats par catégorie, et sur ces lauréats, bien sûr, il y a un gagnant. Nous allons donc maintenant décerner ces prix, mais vous qui possédez une carte multipoint, vous allez pouvoir voter pour les titres, vous allez pouvoir parier sur les titres que nous allons vous présenter. Nous vous montrons donc trois titres à chaque fois, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous appuyez très vite sur le 1, le 2 ou le 3 de votre carte multipoint, puis sur la touche ENT, la manip est toute simple. Vous la connaissez bien, mais il faut aller très vite, puisque vous n'aurez que 10 secondes pour répondre. Et maintenant, j'appelle Delphine. Delphine, que je vous demande d'applaudir. Elle est là.
Bonsoir.
Delphine, que tous les aficionados de MicroKids connaissent bien, puisque nous présentons tous les dimanches matins MicroKids à 9h10, c'est sur France 3.
Dans la catégorie meilleur jeu d'aventure, trois titres ont été nominés par le jury.
Day of the Tentacle de LucasArts.
Freddy Farkas de Sierra.
Simon the Sorcerer de Adventure Soft.
Et le gagnant est...
Day of the Tentacle de LucasArts sur PC et PC CD-ROM.
Graphisme incroyable, animation à la Tex Avery, oui. Scénario et dialogue hilarant. N'ayons pas peur des mots, Day of the Tentacle oui. Sur PC de LucasArts est à ce jour le meilleur jeu d'aventure jamais réalisé. Et le voilà qui revient aujourd'hui dans une version CD-ROM encore plus époustouflante.
Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess.
L'équipe de LucasArts n'a pas lésiné sur les moyens et a carrément demandé à des professionnels américains du doublage de dessins animés de prêter leur voix aux héros de ce jeu d'aventure délirant. Cette fois, les personnages parlent pendant toute la durée du jeu et on se croirait vraiment devant un dessin animé. Pour vous donner une idée du joyeux délire humoristique qui règne sur le jeu, sachez que vous devrez empêcher une ignoble tentacule mutante de devenir le maître du monde en dirigeant trois adolescents boutonneux à travers trois époques différentes. Le passé, le présent et le futur, et que les trois gamins peuvent s'échanger des objets en les plaçant dans des cuvettes de WC transformées par un savant fou en machine à voyager dans le temps. Rien que ça. À MicroKids, on adore. Impossible de mettre une autre note que 19 sur 20.
Dans la catégorie meilleur jeu de rôle, 3 sélectionnés.
Betrayal at Crandor de Dynamix Sierra.
Lands of Lore de Westwood Virgin.
Et Serpentile de Origin.
Et le gagnant est...
Serpentile de Origin sur PC.
Serpentile, signé Origin et Electronic Arts, plonge votre PC dans la plus mystique des aventures. Vous devrez décrypter les grimoires les plus sacrés et endurer les prophéties les plus funestes. Courage! Vous rencontrerez les maîtres des lieux, aux propos d'autant plus mystérieux qu'ils sont, hélas, en anglais. On note le très bon graphisme des visages, qui contraste avec le tracé du décor, beaucoup plus confus. Nous voici dans la partie glaciaire de l'île. Les trappeurs aventuriers sont soudainement attaqués par une bande de pingouins vampires. La sauvagerie continue avec une rude bagarre contre des hyènes. Les combats se jouent entièrement à la souris et sont du coup un peu laborieux. Nous voici dans une région plus chaude. Ce pont qui enjambe un fleuve de lave est superbe. Notez que le personnage suit en fait les moindres mouvements de la souris. Ce mode de guidage est très commode et se révèle très précis même dans les passages les plus étroits. On reste cependant déçu par la bande-son plutôt légère. Sauf vers la fin du jeu, que nous vous montrons en exclusivité. Serpentile a encore beaucoup de secrets à vous dévoiler, une œuvre maîtresse, malgré quelques faiblesses techniques, que nous notons 16 sur 20.
Catégorie meilleure animation, 3 titres.
Alone in the Dark 2 de Infogrames.
Flashback de Delphine.
Et Shadowcaster de Origin.
And the winner is...
Alone in the Dark 2 de Infogrames sur PC.
Un des plus beaux jeux de Noël sur PC sort demain, il s'agit de Alone in the Dark 2. Hubert, tu es scénariste de Alone in the Dark 2, qu'est-ce qui se passe au début du jeu?
Au début du jeu, on incarne un détective privé qui s'appelle Edward Carnby et qui doit sauver une petite fille qui a été kidnappée par un gang de bootleggers dans une maison maudite qui s'appelle Hell's Kitchen en Californie, on est en 1924.
Oui.
Et là, l'affaire se corse parce que, au contraire de l'homme numéro 1, il faut déjà au départ rentrer dans la maison, traverser un labyrinthe avec beaucoup de pièges, traverser après un sous-sol et après essayer d'aller sauver cette petite fille. Mais tout n'est pas si simple dans le jeu, puisqu'on va s'apercevoir que les gangsters auxquels on a affaire sont en fait d'anciens pirates qui sont immortels et qui ont passé un pacte avec une sorcière, voilà 200 ans.
Le jeu est plus complexe, plus long que la première version?
Oh oui, beaucoup plus long. On pense là à peu près tripler ou quadrupler le temps de jeu par rapport à l'homme 1.
Franck, tu as 23 ans, tu es chef de projet chez Infogrames. Qu'est-ce que c'est qu'un chef de projet?
Un chef de projet, c'est, disons, le programmeur principal sur le projet, plus celui qui coordonne, toute l'équipe technique du jeu et qui fait aussi la coordination avec les autres composantes de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe graphique, l'équipe qui s'occupe des sons.
Comment est-ce que tu es devenu chef de projet?
J'étais programmeur sur Alone in the Dark 1 et en fait, j'étais la personne la mieux placée pour devenir chef de projet sur Alone in the Dark 2.
Et pour gérer le moteur de Alone in the Dark, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de jeu vidéo?
Alors un moteur, c'est en quelque sorte un générateur d'application, c'est un outil qui sert à faire des jeux. Donc là, le moteur de Alone in the Dark sert à faire des jeux comme Alone in the Dark 1, comme Alone in the Dark 2, comme Jack in the Dark.
Oui.
Donc sert à faire des jeux en 3D temps réel, dans le décor en 2D.
Hubert, il y a des passages particulièrement difficiles dans Alone in the Dark 2?
Quelques-uns, oui. Surtout dans la maison, je pense que d'abord, quand on arrive au sous-sol, on a intérêt à se déguiser en Père Noël si on veut monter à la cuisine, ça c'est pour les joueurs. Et en haut dans le grenier, on rencontre un personnage assez déconcertant qui s'appelle Bubble Blade. On saute tout le temps pour se battre et il faut, si on veut l'éliminer, tirer quand il est sur ses deux jambes et non pas sur les deux mains.
Quels sont les autres personnages du jeu?
On rencontre donc le chef des bootleggers qui s'appelle One Eye Jack, qui est un ancien pirate borgne. Il a une demi-douzaine de lieutenants, parmi lesquels un monsieur à jambes de bois, qui s'appelle Shantileg, qui tire avec sa jambe de bois, donc Bubble Blade, le monsieur très souple. Il y a DeWitt, un type qui a un Deringer et qui manie très bien l'épée aussi, enfin. Faut quand même laisser un petit peu de surprise aux joueurs.
Le jeu sort sur PC, il est prévu sur d'autres machines.
Ben, si tout se passe bien, on devrait avoir dans la foulée le CDI et CD-ROM et aussi quelque chose sur Macintosh qui sera prévu avant la fin de l'année prochaine.
Et du côté des consoles, est-ce qu'il est prévu quelque chose?
C'est en cours de recherche, en cours d'étude.
Oui.
Maintenant, bon, certains problèmes se posent parce qu'il y a une grande différence entre un PC et une console.
Le PC est beaucoup plus puissant.
Le PC est plus puissant, d'un autre côté, la console a d'autres avantages. Donc, à nous d'utiliser ces avantages pour essayer de faire tourner le jeu dessus.
Il faut quel type de PC au minimum pour jouer sur un jeu
Il faut un 386DX avec 2 mégas de mémoire.
Qu'est-ce qui fait un bon scénariste de jeu vidéo?
Je crois qu'un bon scénariste de jeu vidéo doit écrire vite et c'est surtout avoir pas mal d'idées au contraire d'un roman ou d'un film, d'un scénario de film où on creuse un petit peu un sillon. Le métier de scénariste pour jeux interactifs, c'est un petit peu comme dans les westerns, le Pony Express, vous savez, où on passe d'un cheval à un autre, il faut aller jusqu'au prochain relais pour pouvoir avoir une nouvelle monture.
Franck, d'autres projets?
Oui, Lone Dark 3, peut-être, sûrement même.
Hubert.
Lone Dark 3 aussi, on a commencé, je pense qu'on va faire un western, et puis une suite à Shadow of the Comet, qui s'appellera Prisoner of Ice, et qui se passera dans les années 36-37 au Pôle Sud.
Dans la catégorie meilleur jeu de simul action,
le jury a retenu trois titres, Comanche de Nova Logic,
Privateer de Origin,
et X-Wing de LucasArts.
Et le gagnant est...
Comanche de Nova Logic sur PC.
Si vous avez réussi à venir à bout des nombreuses missions que proposait Comanche, le superbe simulateur d'hélicoptère de Nova Logic, ne criez pas à victoire trop vite. Le cauchemar n'est pas terminé. Comanche Mission Disque est une disquette de scénario qui vous propose en effet 30 nouvelles missions de difficulté croissante. Au menu, attaque de convoi, démolition de batterie lance-missile et mitraillage en règle de tout ce qui bouge, roule ou vole. Les décors sont toujours aussi impressionnants et vous pourrez découvrir de nouveaux paysages tels que cette superbe banquise sur laquelle vous mettrez un terme aux agissements d'odieux trafiquants responsables du massacre de malheureux pingouins. Cette fois encore, on est plus près de l'arcade que d'une véritable simulation, mais Comanche vous offre l'occasion unique de rejouer Apocalypse Now dans votre chambre. Attention, vous aurez besoin de Comanche pour utiliser cette disquette de mission et mieux vaut disposer d'un PC puissant. Un datadisque qui redonne du souffle nouveau à l'original et qui mérite bien 17 sur 20.
Je voulais annoncer en tout début de soirée, nous allons retrouver au cours de cette nuit des jeux vidéo un certain nombre d'intervenants. Le premier d'entre eux, c'est Michel Simès, qui est médecin et qui tient la chronique médicale à France Info et sur France 2.
Il y a plusieurs types de crises. Il y a celle qui se déclenche au bout de quelques minutes. Et ça, c'est une crise d'épilepsie qui est très bien connue par les médecins, qui est la crise liée à une sensibilité aux stimulations lumineuses. Mais on la déclenche pas forcément uniquement avec un jeu vidéo. C'est une épilepsie qui se déclenche, par exemple, si vous roulez sur une route de Provence bordée de platanes, l'alternance ombre et lumière peut déclencher des crises d'épilepsie. Ça, on appelle une photosensibilité particulière. Il y a un autre type d'épilepsie qui est la sensibilité à ce qu'on appelle les patterns. Ce sont des figures géométriques un peu particulières qu'il y a dans certains jeux vidéo. Et effectivement, ces enfants sont plus sensibles et peuvent déclencher des crises. Mais encore une fois, ce sont des enfants qui ont eu des antécédents. Ils n'étaient pas tous épileptiques, mais auraient de toute façon déclenché une crise d'épilepsie à un autre moment. Les précautions à prendre, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'excès. Il faut éviter l'excès pour une raison très simple, c'est qu'on sait que ce qu'on appelle le seuil épileptogène, c'est-à-dire que vous savez qu'une crise d'épilepsie, c'est quand des neurones se mettent à tous décharger d'un coup, ce qui vous fait convulser. Alors chez certaines personnes, ce seuil de déclenchement de la crise est plus bas que chez d'autres, de façon génétique. On sait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent la survenue des crises, c'est notamment la fatigue. Et tous les médecins, tous les pédiatres ont averti, en ce qui concerne les jeux vidéo, il ne faut pas jouer pendant plusieurs heures de suite, il faut s'arrêter en moyenne toutes les demi-heures, se reposer un petit peu, parce que c'est quand même une excitation du cerveau, qu'on le veuille ou non, ces jeux. Et ça, chez les enfants qui ont un seuil épileptogène un petit peu bas, ça peut être dangereux. La deuxième précaution, c'est de ne pas trop se mettre trop près de l'écran. Et parce qu'on sait que des enfants qui jouent devant un écran de télé se mettent en général beaucoup plus près que quand ils regardent simplement une émission. Comme ce soir, on regarde en général quand même à plusieurs mètres, alors que quand on a tendance à jouer, on se met très très près de la télé. Et ça fatigue beaucoup plus.
Les enfants eux-mêmes choisissent leur loisir, leur distraction. Ils ont un sens critique. On l'a entendu ce soir, hein, ils sont capables de dire quand un jeu est complètement débile, comme quand une émission de télévision ne les intéresse pas. Et par contre, bon, les parents sont très anxieux, ils se demandent si c'est une bonne chose ou pas que leurs enfants passent autant de temps devant ces jeux. Alors, je crois que bon, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est bien, c'est ce qui est intéressant dans ces cas-là pour les parents, c'est d'en parler avec leurs enfants, de discuter, de jouer aussi avec eux. Il y a des familles où on joue en famille. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de dédramatiser un petit peu les jeux, puis de s'amuser au passage, ce qui est pas plus mal.
Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent représenter une passerelle entre les parents et les enfants?
Oui, ça peut être un petit peu comme avant le train électrique entre les parents, les enfants et les parents. Ce qui est dommage, c'est que les jeux présentent des images des filles qui sont toujours assez classiques, assez passives. Donc c'est vrai que ça attire pas tellement les filles. Mais pour les garçons, ça peut être un bon jeu pour partager avec leur père.
Dans la catégorie meilleur jeu d'action.
Roi sélectionné, Alien Breed 2 de Team 17.
Cannon Fodder de Sensible Software, Virgin.
Et Syndicate de Electronic Arts.
Et le gagnant est...
Alien Breed 2 de Team 17 sur Amiga 1200.
Alien Breed 2 de Team 17 sur Amiga 1200 est sans conteste un des jeux les plus excitants de l'année. Tout son charme réside dans le fait qu'il est possible d'y jouer à deux simultanément. L'ambiance du jeu rappelle celle de films comme Alien. Les joueurs incarnent deux soldats de choc qui vont devoir nettoyer plus d'une quinzaine de niveaux infestés d'extraterrestres affamés. Les aliens surgissent souvent de partout et vous ressentirez bien vite la panique vous envahir, surtout lorsque votre coéquipier s'enfuit du mauvais côté ou tarde trop à vous porter secours. Vous pourrez en chemin récolter des clés, des trousses de secours, de l'argent ou des munitions. Quant aux complexes dans lesquels vous évoluez, ils comportent des terminaux d'ordinateur auxquels vous pourrez vous connecter. Vous pourrez alors avoir accès à un réseau qui vous permettra d'acheter des armes plus puissantes, des munitions ou obtenir un plan du niveau dans lequel vous vous trouvez. Alien Breed 2 bénéficie d'une réalisation exceptionnelle qui exploite remarquablement bien les capacités de l'Amiga 1200. Le scrolling est d'une fluidité irréprochable, les graphismes sont fins et détaillés et les bruitages vous glacent le sang. Si vous voulez un bon jeu d'action pour deux joueurs, ne cherchez plus, c'est celui-là qu'il vous faut. Notre note, 19 sur 20. Catégorie meilleur jeu de stratégie. Trois nominés, Dune 2 de Westwood Virgin.
Genesia de Microïd
et Star-Lords de Microprose.
Et le vainqueur est...
Genesia de Microïd sur Amiga. Si nous avons décidé de vous présenter Genesia dans MicroKids, c'est parce que Genesia est un jeu extraordinaire. Les passionnés de jeux sur micro ou sur console ont déjà entendu parler de Powermonger, de Populous ou de Civilization. Eh bien, Genesia les vaut largement. Et en plus, il est français. Il a été créé par Thomas Ziegem et édité par la société MicroKids, représentée par Olivier Graciano. Alors, au début de Genesia, il y a un petit groupe de colons. Il y en a combien, Thomas ?
On en dirige au début environ 5-6, c'est vraiment un petit groupe qu'il va falloir aider à prospérer et à monter une civilisation, une sorte de cité.
Ils ont chacun un métier?
Ils ont tous un métier, ça part du fermier en passant par le bûcheron jusqu'à l'architecte.
Et j'imagine qu'ils s'aident les uns les autres.
Oui, par exemple, le fermier cultive les champs et apporte la nourriture à ses compatriotes. Par contre, le bûcheron coupe les arbres et c'est ensuite secondé par un menuisier qui vient scier les planches et les apporter à l'entrepôt, par exemple.
Et il y a des architectes également?
Oui, ils construisent les habitations. Ça va de la petite hutte en passant par la caserne, l'entrepôt.
Les saisons jouent un rôle important?
Oui, c'est exact. Il y en a quatre, comme dans la réalité. Oui. Il neige, il pleut. Par exemple, lors de la fonte des neiges ou lorsque la pluie tombe, la nappe phréatique est alimentée par cette fonte.
Et cette nappe phréatique, si on construit trop de puits?
Elle est asséchée et les arbres ne poussent plus, la population meurt de soif.
De la même manière, il y a des incendies, je crois, à certains moments.
Oui, c'est exact. Par exemple, lorsque le temps tourne à l'orage, la foudre frappe les forêts. Oui. Et un incendie peut prendre dans cette forêt se propager rapidement.
Et là, à ce moment-là, tout l'écosystème est modifié?
Oui, et ce qui privera également les bûcherons de leur bois et donc de ne plus construire d'habitations, ni par exemple de chariots.
Alors, au fur et à mesure du développement de cette petite civilisation, il y a des enfants qui naissent?
des adultes qui meurent,
oui.
Et puis il arrive qu'il y ait des guerres.
Oui, c'est exact. En fait, les enfants naissent particulièrement en hiver, car en hiver, les habitants ne sortent pas à cause du froid, ils restent chez eux à faire certaines choses.
Bravo. Comment ça se passe, un combat?
En fait, il y a plusieurs types de combats. Il y a les combats au corps à corps,
oui.
À armes de jet, lorsqu'on l'a inventé. L'arme de jet, ça va de la fronde au canon.
Et puis, il y a des armes plus sophistiquées qu'on découvre.
Ça va de la montgolfière, en passant par le bateau, transport de troupes.
Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient créateur d'un jeu? Parce que c'est ton premier jeu.
Oui. Ben, en fait, au début, il faut être réellement passionné.
Oui.
Et c'est ce que j'ai fait, presque sans m'en rendre compte, je dirais. Je me suis mis à acheter un Amiga et à programmer.
Oui. Mais j'ai un métier à l'époque.
Oui, j'étais programmeur, vendeur en micro-informatique.
Oui.
Et j'ai dû tout abandonner. Genesis me prenait beaucoup trop de temps.
C'est quand même un sacré pari de tout abandonner comme ça.
Oui, surtout étant moi-même soutien de famille, ça a été difficile. Et ce n'était pas mon seul destin que je mettais en cause. Et il a fallu la vie de ma femme, qui m'a d'ailleurs soutenu moralement.
Et comment ça s'est passé ensuite?
Donc ensuite, j'ai envoyé une démonstration de Genesia à différents éditeurs,
oui.
Qui n'ont pas répondu, malheureusement, c'est assez difficile.
Mm-hmm.
Mais je n'ai pas abandonné, j'ai persévéré, j'ai envoyé une démonstration également à certaines revues françaises,
oui.
Dont Tilt,
oui.
Qui a su retenir Genesia. Je remercie d'ailleurs Guillaume Le Penet qui m'a fait un article coup de pouce.
Olivier, c'est là où tu as découvert?
Oui, Genesia, complètement, oui. Puisque je lisais Tilt, les previews, je vois une avant-première qui me paraissait intéressante. Et donc j'ai appelé Guillaume Le Penet qui m'a mis en contact avec Thomas Zigan. Donc un grand coup de chapeau à Guillaume parce qu'il a eu le nez là-dessus. Quoi.
Et ensuite, qu'est-ce que Microïd a apporté à un programmeur qui était indépendant, qui avait déjà créé son jeu?
Alors on a apporté à Thomas une certaine sécurité,
oui.
Un encadrement,
oui.
Parce que Genesia au départ était vraiment bourré de très bonnes idées, mais après le problème c'est qu'il faut parfois mettre des garde-fous, il faut aussi un petit peu peaufiner ces bonnes idées, les arranger, etc. On a redesigné le jeu complètement ensemble avec Thomas,
oui.
Et en plus on a apporté un savoir-faire de 8 ans d'expérience.
Le jeu est sorti sur PC et sur Amiga, et je crois qu'il y a une bonne nouvelle pour les possesseurs d'Atari.
Le succès que Genesia connaît sur PC et Amiga,
oui.
On s'est dit que je pense que les possesseurs d'Atari seraient contents d'avoir aussi une version, et donc il est complètement envisageable de faire une version sur Atari, ainsi qu'une version sur CD-ROM.
Dans la catégorie meilleur jeu de sport,
3 titres ont été retenus par le jury. Call de Virgin,
Jordan in Flight de Electronic Arts
et OM Super Football de Océan.
Et le gagnant est
Jordan in Flight d'Electronic Arts sur PC.
Attention, chef-d'œuvre, vous avez devant les yeux la dernière simulation de basket d'Electronic Arts sur PC, Jordan in Flight, tout entière consacrée au dieu Michael Jordan. Cet affichage en perspective au ras du terrain est unique. Les changements d'angle de vue se font à une vitesse époustouflante. Quant au bruitage de la balle, on reste baba. Une voix commente même les détails de l'action. Et quand vous faites marquer Michael Jordan, il vient vous féliciter en personne. C'est somptueux.
Sweet.
Le jeu est aussi tactique. Vous choisissez les partenaires qui sauront faire marquer le sublissime Jordan. Nous vous conseillons quand même d'utiliser un PC bien rapide, équipé bien sûr d'une carte sonore, pour pouvoir goûter tous les exploits techniques de cette incroyable simulation. On attend avec impatience d'autres simulations de sport utilisant ce prodigieux moteur d'affichage en perspective. C'est superbe, fabuleux à jouer, et ça vaut 19 sur 20.
Bravo! Serge, vous restez.
Alors, je suis tout particulièrement contente que Jordan in Flight ait gagné, puisque c'est un de mes jeux préférés. Merci à tout le monde.
Merci, Karine.
Ne bougez pas, car nous avons une petite surprise pour vous. Et pour vous la remettre, j'appelle Jean-Louis English, directeur de France 3 Alsace.
Est-ce que Jean-Louis English, le directeur de France 3 Alsace, est avec nous ce soir? Il devait venir, mais je sais qu'il y a beaucoup de verglas
sur les routes entre Strasbourg et Paris. C'est terrible. Et Jean-Louis English semble bien ne pas être là ce soir. Alors, mon pauvre Serge, en fait, vous restez, Serge. En fait, vous n'avez pas trop de chance ce soir, parce que non seulement Jean-Louis English n'est pas là, mais en plus, on devait vous remettre un diplôme, un coup de cœur de la nuit des jeux vidéo, le diplôme du sportif le plus sympa. Et le diplôme n'était pas là tout à l'heure, mais si, il est là, il arrive, et c'est Karine qui va, non, c'est une de nos hôtesses, qui va vous le remettre. Mais non, c'est pas celui-là du tout, ils se sont trompés. Je savais bien qu'il n'était pas arrivé. Voilà, c'est super. Cela dit, vous jouez de malchance parce que c'est pas le vôtre. C'est celui qui est prévu pour tout à l'heure.
On va pas perturber l'émission, on va continuer comme si c'était le mien.
On fait comme si c'était le vôtre. Hein. Allez, on y va. Alors vous êtes contents? Serge, quand même, vous n'allez pas partir comme ça. Oui, il faut parler dans le micro, faut dire, vous aimez les jeux vidéo.
Mais oui, j'aime les jeux vidéo, c'est vrai. Vous savez...
Et puis vous jouez avec vos enfants.
Non, mais le grand problème, c'est que moi, j'ai été élevé un petit peu dans la rue, vous savez, avec les ballons, avec les vélos, à faire du mal aux voisins, on était heureux. Et puis maintenant, il y a une évolution. Il y a les jeux vidéo. J'ai deux enfants, et puis je me suis amusé à répertorier un petit peu les jeux que j'avais pu leur offrir, et que j'ai pu m'offrir par la même occasion. C'est au nombre de 88 avec plusieurs consoles confondues. Donc je souhaite une longue vie aux jeux vidéo, et j'espère revenir l'année prochaine. Je vous remercie.
Eh ben merci. Et puis un dernier mot quand même, un dernier mot pour dire, parce qu'on va quand même en profiter, vous avez quand même participé de très près à la création d'un jeu.
Comment ?
Vous avez participé de très près à la création d'un jeu.
Oui, avec mes amis de chez Lady Games. Et il y a un jeu sur le rugby qui vient de sortir il y a une semaine. J'espère que ce jeu sera apprécié et découvrir le rugby à tous les jeunes et aux mêmes... à ceux qui ne peuvent plus le pratiquer. Je crois qu'il a le mérite d'être le premier et qu'il aura vraiment la possibilité de pouvoir apprendre beaucoup de choses à beaucoup de jeunes.
Catégorie meilleur jeu CD.
Le jury a retenu Rebel Assault de LucasArts, The Seventh Guest de Trilobite Virgin,
Journeyman Project de Presto Studio. And the winner is
The Seventh Guest de Trilobite Virgin sur PC CD-ROM.
Cela fait plus de deux ans qu'on attendait le mythique Guest de Virgin pour PC. Jamais un jeu n'avait atteint une telle qualité graphique, les décors ont été entièrement réalisés en images de synthèse. Cela représente plusieurs dizaines de mégas de données que seuls les PC équipés d'un CD-ROM pourront stocker. Certaines scènes ont d'abord été filmées avec de véritables acteurs avant d'être digitalisées et insérées au milieu des décors. Le résultat est d'autant plus fascinant que l'aventure a pour cadre une vieille et inquiétante bâtisse dont les sombres couloirs abritent de terrifiants fantômes qui ne demandent qu'à s'occuper des visiteurs imprudents. Et même s'il nécessite encore pour le moment une configuration impressionnante, CD-ROM et PC très puissants, The Seventh Guest préfigure ce que seront les jeux de demain, notre note 19 sur 20.
Avant de remettre les deux derniers tildes d'or, un extrait de notre colloque.
Dans les ordinateurs que les Français possèdent, sachant qu'il y a à peu près un foyer sur dix en France aujourd'hui qui possède un ordinateur, l'usage principal, c'est les jeux. C'est-à-dire que 60% de ces micro-ordinateurs sont utilisés pour des jeux. Ensuite, l'usage qui vient après l'usage des jeux, c'est l'usage autour de la bureautique, c'est-à-dire l'utilisation classique qu'en font les gens dans les entreprises. Enfin, l'éducation qui est quelque chose d'extrêmement important, est-ce que les micro-ordinateurs permettent. Et puis enfin, c'est tout ce qui a trait à la musique et à la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un micro-ordinateur, c'est pas simplement une plateforme qui vous permet de jouer, c'est une plateforme qui vous permet de faire beaucoup d'autres choses. Et tout l'enjeu de cette micro-informatique de loisirs, c'est que justement, elle apporte beaucoup plus et que, en fonction des besoins de chaque famille, en fonction des besoins de chaque foyer, vous puissiez adapter, grâce aux nombreux logiciels qui sont en développement en ce moment, vous puissiez adapter en fonction de ce que vous avez envie de faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, je vais peut-être citer quelques exemples. Ça peut être votre courrier, mais ça peut être de la composition musicale, ça peut être des enregistrements musicaux, ça peut être des stockages d'informations du Minitel. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour, grâce à la micro-informatique que vous pouvez faire aujourd'hui, et dont qui est un des aspects du jeu vidéo que nous voyons ce soir. Je crois que quand on regarde par rapport à une dizaine d'années en arrière, la donne s'est complètement modifiée. Elle s'est complètement modifiée parce que il y a beaucoup de gens qui, dans leur travail, aujourd'hui, utilisent un micro-ordinateur. En France, il faut savoir qu'il y a 5 millions d'ordinateurs qui sont installés dans les entreprises. Deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que les prix ont chuté dans l'informatique et en particulier dans la micro-informatique de façon énorme. Quand je regardais nos prix de novembre 89, c'est-à-dire il y a 4 ans, on a divisé nos prix par 3 et les performances ont été multipliées par 3. Donc on voit la révolution qui a eu lieu dans l'informatique. Et troisième chose, et je crois que les différents intervenants en parlent ce soir, troisième chose importante, il y a de plus en plus de logiciels. Des logiciels pour apprendre à lire, des logiciels pour apprendre l'anglais, des logiciels, des encyclopédies, des logiciels pour jouer, des logiciels pour tracer sa carte, pour aller d'un point à un autre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent autour de l'interactivité, autour de l'utilisation à la maison de l'informatique. Et je crois que c'est ce qui explique donc ce que font certains grands constructeurs, ce que nous avons décidé de faire, c'est-à-dire donc de faire des gammes qui soient non pas des gammes faites pour les entreprises, mais des gammes faites pour les particuliers, de façon à ce qu'ils les utilisent à la maison.
Et nous allons maintenant rendre service à quelqu'un qui transpire à grosses gouttes depuis un certain nombre de minutes. Vous l'avez compris, il s'agit de notre candidat senior qui va jouer sur Keter, sur Compact Disc Interactif, et que je remercie de s'être prêté au jeu. On peut l'applaudir, il s'agit de Thomas Ormon. Alors, Thomas, tu lances le jeu. Oui, ils arrivent, ils sont là, ce sont les premiers astéroïdes. Et c'est parti. Thomas va affronter le château numéro 2 de Keter. Pas mal. Pas mal du tout. Pour l'instant, il s'en sort brillamment en évitant tous les vaisseaux, ou quasiment tous les vaisseaux ennemis qui sont devant lui. Et en récupérant surtout les boules d'énergie, c'est très important de récupérer les boules d'énergie. On reste concentré. Oui, pas mal, attention, voilà une boule verte, en haut, à gauche. Une deuxième vague devrait apparaître. Oh là là. Non, l'objectif n'est pas de percuter tous les vaisseaux ennemis, mais au contraire de les éviter de récupérer les boules vertes, de se faufiler dans les tunnels. Voilà, là ça va être à gauche. Très bien. Ah, une boule d'énergie. Et une deuxième boule d'énergie. Mets-toi en bas, à droite, on va là. Le vaisseau est très solide. Thomas Ormon aussi. Ses nerfs ne le trahiront pas. Il mènera cette partie jusqu'au bout. Ah. Alors, oh oui, Thomas Ormon, on peut l'applaudir. Thomas, quel effet ça fait d'être dans la peau d'un candidat de MicroKids?
Oh ben c'est très drôle, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup transpiré depuis un quart d'heure. Je me demandais si vous m'aviez pas oublié.
Non, pas du tout. Oh, 80 points d'énergie, 21 chocs et 4 pulsars. C'est très très bien. Merci. Thomas, merci, bravo.
Dans la catégorie meilleur simulateur de vol.
Trois titres. Aces Over Europe de Dynamics Sierra.
TFX de DID Océan.
Et Tornado de Digital Integration.
Et le vainqueur est...
TFX de DID Ocean sur PC.
Martin, vous travaillez sur un autre projet qui se nomme TFX Inferno.
Inferno?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, TFX?
TFX, c'est l'abréviation de Tactical Fighter Experiment, le nouveau programme américain de développement de nouveaux chasseurs de combat dans les 20 prochaines années.
C'est donc un simulateur de vol?
Oui, c'est un simulateur de vol, très sérieux, mais c'est aussi en même temps un jeu d'arcade.
Mais comment pouvez-vous combiner un simulateur sérieux qui réclame toute la puissance de l'ordinateur et un jeu d'action rapide?
Eh bien, nous permettons au joueur de configurer le jeu exactement comme il veut. Si vous voulez une simulation complexe, vous l'avez. Mais il y a aussi une centaine de missions directement jouables et assez faciles.
Quand TFX sera-t-il disponible et sur quelle machine?
Nous le sortirons d'abord sur PC vers l'été, presque en même temps qu'Odyssée. Nous le développerons aussi sur Amiga 1200 et sur certaines nouvelles consoles.
Par nouvelle console, vous entendez sans doute 3DO?
3DO, oui.
Cette machine vous intéresse beaucoup?
Oui, oui. On l'a vu, elle est très impressionnante.
Vous pensez que ce sera un succès?
Oui, je pense que Nintendo et Sega ont du souci à se faire si cette console décolle.
Dans la catégorie meilleur jeu CDI.
Trois titres retenus, Demon's Quest de SPC Philips,
Un cas de cocktail
et Quêteur de Infogram.
Et le gagnant est
Un cas de cocktail sur CDI.
Yannick, tu es le créateur du jeu Inca, qui est publié par Cocktail Vision. Comment commence le jeu?
Le jeu commence en 1525, sur les bords du lac Titicacao, avec la mort de Huayna Capac, le dernier grand Inca. Il connaît l'arrivée des conquistadors sur le sol péruvien, mais il est serein car il a mis de côté, dans l'espace-temps, tous les pouvoirs des Incas afin de les protéger de ces conquistadors.
Et le but du joueur?
Et le but du joueur, c'est donc d'accomplir la prophétie, puisque Huayna Capac sait que dans 5 siècles, c'est-à-dire de nos jours, un élu arriverait dans un disque iridescent afin d'entreprendre une grande quête, récupérer les différents pouvoirs des Incas et devenir le nouvel Inca.
C'est un jeu d'aventure, donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'énigmes à résoudre. Hein.
Beaucoup d'énigmes, oui. Entre autres, une des énigmes qui a lieu pour la récupération du premier pouvoir des Incas, après toute une aventure très mouvementée dans une ville Inca, un véritable labyrinthe où il va affronter des conquistadors en chair et en os, il se retrouve devant un Huaca, qui est en Quechua sanctuaire, qui veut dire sanctuaire en Quechua. D'ailleurs, ça fait partie de toutes les références historiques qu'il y a dans le produit. Et le début du jeu commence avec Huayna Capac qui parle réellement en Quechua. C'est un véritable indien qui nous a fait les traductions.
Oui, donc c'est très très fidèle à la réalité.
Tout à fait, oui. Donc, ce premier pouvoir, il arrive devant ce Huaca où se trouvent les statues de Manco Capac et Mamauclo, dont j'ai les poteries que j'ai ramenées du Pérou qui m'ont servi de base pour les dessins. Dans le jeu, elles sont en or. Il doit, pour obtenir ce premier pouvoir, créer la notion de temps et pour cela créer la vie.
Et puis il y a des séquences d'action.
Oui, également, beaucoup d'action étant donné que les conquistadors sont toujours présents. Ils ne pensent qu'à récupérer l'or, entre autres l'or du vaisseau spatial dont se sert Eldorado. Oui. C'est une transposition également du couteau sacrificiel des Incas, du Tumi. Donc des combats dans l'espace, des combats en survol de planètes, dans les canyons, oui. Dans les labyrinthes, dans la caravelle de Aguirre qui est la symbolisation du chef des conquistadors.
Mais c'est un peu étrange ce mélange de grandes traditions millénaires et puis des combats dans l'espace. Les Incas connaissaient l'espace?
C'est une des théories, oui. On a pensé aux extraterrestres également. À la base de ça, ce sont des lignes de Nazca qui sont des lignes qui s'étendent sur des kilomètres. Certaines lignes sont des dessins, d'autres ressemblent à des pistes d'atterrissage. Et donc on a parlé d'extraterrestres. Mais pourquoi pas des pouvoirs magiques des Incas.
Qui leur auraient permis de se déplacer dans l'espace.
De se déplacer dans l'espace. Bon, ça fait partie des points de départ du scénario.
Oui.
D'autres mystères, c'est par exemple la construction des temples Incas, le déplacement et la taille de blocs de pierre de plus de 300 tonnes, qui sont toujours là d'ailleurs, qui ont résisté au temps.
Et qu'on aurait aujourd'hui encore du mal à...
On aurait beaucoup de mal à déplacer, à fabriquer.
Donc tous les joueurs de Inca vont essayer de récupérer ces pouvoirs magiques et pouvoir déplacer des blocs de 300 tonnes. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce jeu?
À l'origine, c'est mon voyage au Pérou en 82.
Oui.
Donc, et l'émerveillement, le coup de foudre pour ce pays.
Tu avais déjà l'idée d'un jeu?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Comment c'est venu alors?
C'est venu bien plus tard, donc relativement récemment. En rentrant d'Afrique, je travaillais pour la télévision pour la réalisation d'illustrations, pour les jaquettes de jeux.
Et l'informatique t'a permis de...
Alors oui, du coup, j'ai connu l'informatique par ce biais. Et oui. Je pensais que c'était vraiment une synthèse de tout ce que je savais faire aussi au niveau de l'image, de la photo, de la mise en page, du scénario.
Nous avons tenu à rendre hommage à une personnalité qui nous est chère. Et pour remettre un prix un petit peu particulier, j'appelle Monsieur Pierre Tchernia à nous rejoindre.
Bonsoir.
Est-ce que je dois faire celui qui n'est pas au courant ou est-ce que je peux être au courant?
On pourrait dire que vous faites comme si vous étiez au courant.
Ben voilà, je suis très heureux parce qu'on m'a demandé de venir dans une manifestation qui m'enchante, à la Sorbonne. L'un de nos amis l'a dit, quand on a eu une scolarité un peu brinque-ballante, on est fier d'être à la Sorbonne et qu'on y parle d'une chose aussi neuve, aussi vivante, aussi dynamique, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe, que les jeux vidéo. Les jeux vidéo, moi, je les aime beaucoup. Enfin, beaucoup, beaucoup. J'ai des petits-fils avec qui je joue. Et ils gagnent toujours. Alors, il y a des moments où, quand même, je me sens un peu dépossédé. Voilà, je vais appeler quelqu'un qui est un ami pour qui j'ai autant d'amitié que d'estime. Et cet ami, il se trouve qu'il a créé, avec un autre ami, hélas, disparu il y a plusieurs années déjà, en 1959, un héros. On parle de la création française. Eh bien, ils ont créé un héros bien français, un héros qui est tiré à 250 millions d'exemplaires dans le monde, je parle de livres, et maintenant à 500 000 exemplaires de jeux vidéo. C'est mon ami Albert Uderzo, et le héros, c'est Astérix. Vous êtes merveilleux, vous jouez l'étonnement, comme si vous ne l'aviez jamais vu ce tableau.
Il fallait pas le dire.
Je lui donnerai après.
Quelques mots quand même du créateur.
Oui, eh bien, pardon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je dois vous avouer une chose. Ma vie professionnelle est un long fleuve tranquille, bordé de paradoxes. Et ce soir, c'en est bien un. Vous savez, d'abord, premier paradoxe épouvantable pour moi, c'est que, alors qu'avec René Goscinny, nous avons créé ces Gaulois et ces malheureux Romains, alors il se trouve que mes ancêtres à moi sont Romains. Vous voyez la difficulté. Premier paradoxe. Il y en a bien d'autres que je pourrais vous citer comme ça, mais je voudrais pas vous ennuyer trop longtemps. Et ce soir, paradoxe ô combien, c'est que mon personnage semblerait avoir un certain succès dans les jeux vidéo, et moi je ne sais pas du tout jouer aux jeux vidéo. J'ai un peu honte, ça restera entre nous, ça ne sortira pas d'ici.
Ça, on peut lui faire confiance.
Mais j'ai quand même un espoir, c'est que j'ai un petit-fils qui a 4 ans et demi, qui est encore un peu jeune pour ça, et j'attends après lui justement pour qu'il m'informe et qu'il me mette au courant. Donc d'ici quelques années, je pourrais vous dire que, enfin, je suis des vôtres. Merci en tout cas.
Un grand merci à vous. Et maintenant, nous passons tout de suite au deuxième volet de l'histoire des jeux vidéo.
Dans les années 80, on s'est dessiné à l'écran des petits bonshommes qui ne ressemblent plus à une mosaïque de rectangles. Des graphismes hallucinants écrits déjà tilt. Dès qu'ils seront représentés à peu près correctement le corps humain, les créateurs de jeux vont penser à une première application, la baston. Karateka sur Apple II sera piraté, imité, amélioré.
Jusqu'au... Valenciennes, Alès, Laval,
of Rage, sans oublier Karate Kid. Pour donner un cadre plausible à leurs héros sophistiqués, les programmeurs chercheront refuge dans le Moyen-Âge européen. Golden Axe est un bon exemple de ce type de jeu. Le principe est simple et roboratif, cogner sur tout ce qui remue à l'écran. Shadow of the Beast est de la même famille de soft délicat et ô combien poétique. Quant au bon vieux principe du shoot'em up, on l'améliore sans cesse comme dans Project X, un des meilleurs titres du genre. Aux joies simples succèdent bientôt des plaisirs un peu plus élaborés. Il faut toujours se battre durement contre l'adversité, mais de plus en plus d'astuces est nécessaire. Dans Mission Impossible, qui date de 1984, sens de l'orientation, observation méthodique et esprit logique sont les conditions nécessaires à la survie. Faute de quoi, les seuls muscles et l'agitation frénétique du joystick vous conduisent vite à finir grillé par un robot. Les jeux d'action sont de plus en plus soignés sur le plan graphique. Prince of Persia, dont la deuxième version vient de sortir, établira un nouveau standard de qualité. Même Conan réclame beaucoup de méthodes pour triompher de ses 7 niveaux. Toujours en 1984, le corps à corps ne suffit plus. Petit à petit, le combat devient stratégique. Avec Skyfox, les antiques micros du milieu des années 80 découvrent la stratégie multi-armes. Les graphismes paraissent insupportables aujourd'hui aux nouveaux amateurs, mais les ancêtres se souviennent qu'un tel jeu faisait figure à sa sortie de prouesses techniques. Jusqu'alors réservé à une poignée de fanatiques, le jeu de rôle trouvera d'innombrables supports sur micro-ordinateur, en particulier avec le classique Dungeon Master, dont la maîtrise complète pourrait bien demander plusieurs années. Mais c'est avec Mario et ses nombreux épisodes que le jeu vidéo trouvera son essor définitif. Le succès de l'œuvre de Shigeru Miyamoto ne peut se comparer dans l'histoire des industries culturelles du XXe siècle qu'avec autant en emporte le vent, E.T. ou les Beatles. Des centaines de millions de cartouches vendues et une carrière qui n'en est peut-être qu'à son début. Comme beaucoup de chefs-d'œuvre, Mario est à la fois simple et compliqué. Simple d'aspect, pas de graphisme spectaculaire, pas de technique de programmation extraordinaire, mais suffisamment compliqué pour décourager la plupart des joueurs adultes et pour passionner des mois durant les centaines de millions de jeunes occidentaux et asiatiques qui s'y sont frottés. Il y a une magie Mario faite de multiples ingrédients subtilement dosés. La contribution de Shigeru Miyamoto ne se limite d'ailleurs pas à Mario. On lui doit aussi un autre classique, Zelda, presque aussi célèbre au Japon et dont le fan club américain compte plusieurs centaines de milliers de membres. La course automobile sur micro ou sur console a détrôné les antiques Scalectrix et autres circuits 24. Super Mario Kart utilise un nom connu. Outrun a été l'un des plus grands succès dans les bars ou les salles d'arcade. F-Zero, lui, a été un des premiers piliers de la console Super Nintendo. Quant à Stunt Car, il fut un des premiers titres de course de voiture à utiliser la technique dite de 3D pour 3 dimensions qui permet une représentation graphique de plus en plus réaliste. Et enfin, Super Monaco Grand Prix qui reste dans toutes les mémoires et qui fit vendre des quantités considérables de consoles Mega Drive. Mais sur cette console, ce fut Sonic, le petit hérisson bleu, qui permit à Sega de trouver la réplique au Mario de Nintendo. Une réalisation extrêmement nerveuse avec des prouesses de programmation. Dans les années 80, le sport continue à être un des chevaux de bataille de l'invasion des jeux vidéo. Olympic Gold, sorti pour les Jeux Olympiques de Barcelone, propose une dizaine d'épreuves d'athlétisme et de natation. Avec les années, on sollicite de plus en plus l'intellect des joueurs. Lemmings suppose beaucoup de logique pour triompher de ses pièges. Tetris, lui, est le grand succès prisé des adultes et notamment des femmes. De nombreuses entreprises ont vu leur productivité baisser dans les bureaux depuis l'invention de ce jeu, dû à deux créateurs russes. Empiler des briques de forme variable qui dégringolent du haut de l'écran, telle est la nouvelle passion des dactylorocks que chantait Eddie Mitchell. Le domaine couvert par les jeux s'élargit sans cesse, la simulation d'un avion dans Flight Simulator, la maîtrise d'un univers complexe où le joueur a le rôle d'un dieu avec Populous, la reconstitution de l'aventure des pionniers du rail avec Railroad Tycoon, écrit par Sid Meier, l'inventeur d'une demi-douzaine de jeux qui figurent parmi les meilleures ventes sur micro-ordinateur. À l'orée des années 90, les jeux vidéo sont devenus une industrie majeure, plus structurée, qui propose des centaines de titres très différents, bien loin des jeux simplistes de la décennie précédente.
Pour continuer à jouer avec nous et à voter sur les jeux qui vont gagner les consoles plus d'or, il vous faut à nouveau charger votre carte. Votre carte multipoint grâce à la mire.
La fameuse mire, la mire diabolique. La mire diabolique qui ne va pas nous empêcher de suivre la première demi-finale qui va se dérouler dans le château Quéter. Le château numéro 3 de Quéter. Et qui est aux commandes?
Christophe.
C'est Christophe, un candidat que j'ai déjà reçu dans MicroKids qui avait déjà gagné de nombreux cadeaux. Qu'est-ce que tu avais gagné?
Un Mega CD, 3 jeux Super Nintendo et 3 jeux Mega CD.
Pas mal. Hein? Pas mal. Il est resté 3 semaines de suite, c'est bien. On va voir quel score il va faire sur le jeu Quéter sur Compact Disc Interactif. Et c'est le château numéro 3. Tu lances le jeu. Et c'est parti. Un champion qui vous commande, mais c'est un des niveaux les plus difficiles, car non seulement il vous faut éviter tous les projectiles qui viennent contre vous, mais ceux-ci tirent sur vous. Et il ne faut surtout pas oublier de récupérer des points d'énergie, parce que sinon on ne peut pas terminer le niveau. Il y en a un qui s'approche. Très bien. Il faut faire attention, parce que là les points des boules d'énergie, les pulsars, généralement se déplacent sur l'écran. Ceux qui partent de la gauche vont vers la droite, et inversement. Oh là là, je ne sais pas si Christophe va pouvoir terminer sain et sauf. Si. Le score va s'afficher. Il atteint un temple de ce jeu, puisque c'est un jeu très, très complexe, très long. Beaucoup d'étapes. Là, on vous montre quelques extraits seulement des séquences d'action. Et le score est finalement de 20 points d'énergie, 12 chocs et 2 pulsars. On peut l'applaudir parce que le niveau est particulièrement difficile. Merci. D'autres finalistes, d'autres demi-finalistes tout à l'heure. Et puis, bien sûr, à la fin de cette émission, la finale qui permettra aux gagnants de remporter un téléviseur 16/9 et un CDI pour le premier et puis un lecteur de compact disque interactif pour le second. On enchaîne avec les consoles plus d'or. Les consoles plus d'or qui récompensent donc les meilleurs jeux sur console.
Dans la catégorie aventure.
3 titres ont été retenus par le jury. Jurassic Park de Océan,
Landstalker de Climax
et Shining Force de Sega.
Et le gagnant est
Landstalker de Climax sur Mega Drive.
La Mega Drive a désormais son Zelda, il s'appelle Landstalker. Cet excellent mélange d'action et d'aventure vous propose d'incarner Nigel, un jeune mercenaire parti à la recherche du légendaire trésor du roi Nol. Le jeu est entièrement présenté en 3D isométrique, une perspective inhabituelle qui vous posera peut-être quelques problèmes de jouabilité au début, mais vous verrez, on s'y fait très vite. Comme dans Zelda, il vous faudra explorer de vastes territoires. Forêts, châteaux, villes, villages, maisons, grottes, donjons, les décors sont superbes, variés et ils regorgent souvent de pièges qu'il vous faudra apprendre à éviter. Comme vous pourrez vous en apercevoir en consultant la carte, l'action se déroule sur une immense île dont la forme rappelle étrangement celle d'un dragon. Vous pourrez en explorer une grande partie dès le début, mais certains lieux seront au départ inaccessibles. C'est en dialoguant avec les nombreux personnages que vous croiserez sur votre chemin que vous réussirez à trouver le moyen d'étendre sans cesse votre champ d'investigation. Les villages contiennent bien entendu diverses échoppes dans lesquelles vous pourrez trouver le matériel dont vous avez besoin pour partir à l'aventure. Et comme dans tout bon jeu d'aventure qui se respecte, le héros dispose de points de vie et de divers équipements, armes et armures. L'écran d'inventaire, lui, permet d'utiliser les objets comme les clés ou les potions que vous ne manquerez pas de récolter en cours de route. Bien entendu, l'action est aussi au rendez-vous. Et en plus des pièges intégrés au décor, comme les plateformes mobiles ou les fosses garnies de piques, vous devrez de temps en temps affronter des groupes de monstres lors de mémorables combats à l'épée. Avec ses musiques entraînantes, ses graphismes impressionnants et sa profondeur de jeu inégalée, Landstalker est sans doute le meilleur jeu d'aventure actuellement disponible sur Mega Drive. Il devrait de plus sortir prochainement avec des textes entièrement traduits en français, un socle indispensable pour les amoureux de jeux d'aventure. Notre note, 19 sur 20.
Meilleur jeu de sport. Trois titres retenus par le jury, Davis Cup Tennis de Tengen Loriciel sur Mega Drive, Eric Cantona Football Challenge de Elite sur Super Nintendo et FIFA International Soccer de Electronic Arts sur Mega Drive.
Et le vainqueur est
FIFA International Soccer de Electronic Arts sur Mega Drive.
FIFA Soccer de Electronic Arts sur Mega Drive est une des meilleures simulations de foot du moment. Le jeu offre une vue de terrain en 3D isométrique à laquelle les autres jeux de foot ne nous ont pas habitués, mais qui s'avère finalement très agréable. Le système de remise en jeu pour les touches et les corners est lui aussi très original et très pratique. Tandis que la fenêtre en bas à gauche de l'écran montre votre joueur, vous déplacez le viseur sur la partie du terrain où vous souhaitez envoyer la balle. Les sprites des joueurs sont gros et bien animés, ce qui rend les actions beaucoup plus spectaculaires. Les joueurs sont capables d'effectuer des têtes, des dribbles, des amortis, mais aussi de terribles tacles tels que celui-ci. L'arbitre n'a rien vu, on continue. Toutes les règles du football sont là, le socle propose 40 équipes, 500 joueurs et en cours de partie, vous pourrez modifier votre stratégie en positionnant vos joueurs en défense, en attaque et en milieu de terrain. L'écran stratégique est d'une remarquable clarté et tous les textes qui s'affichent à l'écran ont été traduits en français. Certaines actions semblent parfois à la limite de la légalité comme ce penalty marqué de façon plutôt douteuse. Mais la jouabilité est au rendez-vous et le principal, c'est qu'on s'amuse. Lorsqu'un but est marqué, c'est l'euphorie. Le buteur se laisse aller à quelques acrobaties sous les acclamations de la foule dont les cris sont remarquablement bien rendus. Et à la fin du match, les vainqueurs exultent de joie en se congratulant mutuellement tandis que la foule en délire lâche des ballons sur le terrain. Des petits détails mais qui contribuent grandement à l'ambiance délirante du jeu. Que ce soit contre l'ordinateur ou contre un adversaire humain, les parties sont toujours très excitantes. Mais FIFA Soccer dispose d'un énorme avantage sur tous ses concurrents. Il est possible d'y jouer à 4 simultanément grâce à un dédoubleur de joystick. Difficile de trouver mieux en matière de jeu de foot sur Mega Drive. Notre note, 19 sur 20.
Console Plus d'or du meilleur jeu de combat.
avec trois titres sélectionnés, Mortal Kombat de Acclaim, Street Fighter 2 Prime de Capcom.
Street Fighter 2 Turbo de Capcom. And the winner is...
Street Fighter 2 Turbo de Capcom sur Super Nintendo.
Street Fighter 2, le champion incontesté des jeux de castagne sur Super Nintendo, revient dans une version améliorée baptisée Street Fighter 2 Turbo. Cette fois, vous pourrez incarner les boss de fin de niveau que vous deviez vous contenter d'affronter dans la première version, et en mode deux joueurs, vous pourrez choisir le même personnage que votre adversaire. Cela évitera bien des disputes à la maison entre vous et votre petit frère, qui veut toujours prendre Ryu, alors que vous aussi, justement, vous vous êtes entraîné comme une bête avec, et que, bref, cette nouvelle version va faire des heureux. D'autant plus que le jeu lui-même a été considérablement amélioré. Il est désormais possible d'accélérer la vitesse du jeu de façon phénoménale, à tel point que seul un mutant serait capable de suivre l'évolution des personnages à l'écran. De nouveaux coups très spectaculaires ont également été ajoutés et tous les personnages disposent désormais de coups spéciaux qui leur permettent de lancer des projectiles à distance. L'étonnant Dalsim est même passé maître dans l'art de la téléportation. Aucun doute, Street Fighter 2 Turbo est la nouvelle référence en matière de jeux de castagne, ce qui mérite bien une note de 18 sur 20.
Console Plus d'or de la meilleure simulation de course automobile.
Trois titres retenus par le jury. Formula One World Championship de Domark.
F1 Pole Position de Human Ubisoft.
Nigel Mansell World Championship Racing de Gremlin.
Et le vainqueur est...
F1 Pole Position de Human Ubisoft sur Super Nintendo.
Si vous vous sentez capable de faire mieux que Prost et Senna réunis, essayez donc F1 Pole Position de Human sur Super Nintendo. Cette course de Formule 1 s'oriente plus du côté de la simulation que du côté de l'arcade. Vous pourrez ainsi choisir d'incarner les plus grands pilotes mondiaux et paramétrer votre véhicule pour l'adapter à votre style de conduite. Ici, le réalisme est de rigueur. Si vous ne vous arrêtez pas suffisamment au stand, votre voiture risque vite de fatiguer et de devenir incontrôlable. Pas question non plus de jouer au stock-car avec les autres concurrents. Les accidents et les collisions provoquent des dégâts que vous devrez réparer le plus vite possible. Les circuits sont longs et il vous faut souvent effectuer près d'une dizaine de tours, ce qui vous obligera à passer parfois plus de 20 minutes sur la même course. Mais l'action est tout de même au rendez-vous et la lutte avec vos concurrents pour la première place risque d'être chaude. Il est possible de participer à divers grands prix, mais rien ne vaut le jeu à deux. L'écran est alors séparé en deux parties égales et seule une connaissance approfondie de chaque circuit permet de remporter la victoire. Aucun doute, F1 Pole Position est une des courses de voitures les plus réalistes jamais réalisées sur Super Nintendo, ce qui explique son excellente note, 18 sur 20.
Deuxième demi-finale de notre compétition et je vous demande d'encourager vivement notre candidat senior qui est là. Il s'agit de Henri Coron qui a réalisé le deuxième meilleur score chez les seniors et qui va nous faire une démonstration de ses talents.
J'avais actuellement le troisième meilleur score.
Et c'est parti, dans une phase extrêmement difficile. Alors je rappelle le principe, Henri. Voilà, évitez tous les obstacles. Et récupérer, si tu peux, les boules vertes. Il y en a une à droite, là. Méfie-toi. Oh, ouais, oh, presque. Ah, celle-là va partir à droite, méfie-toi, trop tard. Ah là là, je ne suis pas sûr, là, que le vaisseau aura assez d'énergie pour finir indemne. Une boule verte, oh, presque. C'était limite. Est-ce que Henri Coron va réussir à finir ce score? Aïe, aïe, aïe. Henri n'atteindra pas le temple de la sagesse.
Et Jean-Michel...
Mais il a tenu 41 secondes. On choque un pulsar, on l'applaudit bien fort et on enchaîne directement avec la troisième partie de l'histoire des jeux vidéo. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, les jeux vidéo n'ont plus grand-chose de commun avec leurs ancêtres des décennies précédentes. Un jeu de 1993 repose sur un programme parfois 100 fois plus gros qu'un jeu de 1983. Sur une cartouche Sega ou Nintendo, on pourrait faire tenir aisément une trentaine de titres de la console Atari, reine d'il y a 10 ans. Mais c'est surtout la qualité des graphismes qui a progressé de manière spectaculaire. Les techniques ont considérablement évolué, elles se rapprochent désormais de l'image de synthèse. Chaque image est calculée en temps réel et non plus dessinée, ce qui permet des angles de vue variables et de plus en plus proches de l'audiovisuel. Il n'y a pas que le dessin à avoir progressé de façon vertigineuse, la musique n'a plus rien à voir avec les pauvres sons électroniques de naguère. On continue à exploiter les bons vieux filons de toujours, la bagarre, la sortie conjointe d'un jeu avec un film. Cela dit, les jeux vidéo développent leur propre univers. Une catégorie de titres connaît un essor considérable, celui des jeux d'aventure, de plus en plus proche d'un véritable dessin animé interactif.
I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever.
Hands off that hamster.
Friend of yours, Bernard?
He belongs to Weird Ed Edison.
Un titre comme Stunt Island propose, lui, une véritable initiation au tournage et au montage d'un film de cinéma. Les simulateurs, eux, explorent une voie nouvelle qui pourrait bien réconcilier la pédagogie et le jeu. Civilization propose, par exemple, de refaire l'histoire du monde. SimCity vous met aux commandes d'une ville que vous fabriquez de toutes pièces et qui s'anime, se développe en observant des règles cohérentes. Employant des techniques de plus en plus sophistiquées, créées à partir d'équipes de scénaristes, de dessinateurs, de musiciens et d'ingénieurs de plus en plus nombreux, les jeux vidéo sont les descendants du cinéma. Ils en emploient de plus en plus les méthodes de production et de marketing, à tel point que de nombreux producteurs de cinéma américains envisagent de se recycler dans ce nouveau et prospère dixième art.
Oh, how terrible!
I'm sorry to hear it. I knew Mr. Bowen from business affairs.
Poor Anisette.
Et maintenant, de nouveau les consoles plus d'or du meilleur jeu portable. Pour remettre ce console plus d'or du meilleur jeu sur console portable, j'appelle Shin Landsman, qui anime la rubrique jeux vidéo dans Nulle part ailleurs sur Canal+. Bonsoir Shin.
Bonsoir, et j'adore le Game Boy, et j'attends bientôt, j'espère un jour voir le Game Boy virtuel avec les lunettes.
Très bien. Le dernier jeu que tu as présenté dans Nulle part ailleurs,
C'était Aladdin.
Console plus d'or du meilleur jeu sur console portable. Trois titres. Lemmings de Sega sur Game Gear, de Océan sur Game Boy, de Psygnosis sur Lynx. Mystic Quest de Squaresoft sur Game Boy. The Legend of Zelda Link's Awakening de Nintendo sur Game Boy.
Et le vainqueur est The Legend of Zelda Link's Awakening de Nintendo sur Game Boy.
Legend of Zelda, Link's Awakening, c'est un jeu de Nintendo sur Game Boy, démarre alors que Link, le héros, vient d'échouer sur une île étrange à la suite d'une terrible tempête. Pour pouvoir rentrer chez lui, notre ami devra partir à la recherche de 8 instruments qu'il lui faudra ensuite apporter à l'œuf sacré qui trône au sommet de la montagne du centre de l'île. Même si les séquences de combat sont nombreuses, Legend of Zelda est avant tout un gigantesque jeu d'aventure dans lequel vous devrez explorer de vastes territoires. Au fil de l'aventure, vous pourrez acheter divers objets et améliorer les caractéristiques de votre personnage. Le dialogue tient également une grande place dans le jeu et, bonne nouvelle, les textes seront entièrement traduits en français. Legend of Zelda est sans doute le jeu qui a fait la réputation de la NES et c'est un vrai plaisir que de voir débarquer la saga sur Game Boy où les jeux dotés d'une grande profondeur se font plutôt rares. Notre note, 18 sur 20.
Console plus d'or, de meilleurs jeux de plateforme.
James Bond 3, Opération Starfish de Electronic Arts sur Mega Drive, Mr. Nuts de Océan sur Super Nintendo et Tiny Toon Adventures Buster Butts Lose de Konami sur Super Nintendo.
Le vainqueur est
Mr. Nuts de Océan sur Super Nintendo. Retranché dans ses montagnes, l'abominable homme des neiges a décidé de congeler la Terre entière afin de devenir le maître du monde. Seul un écureuil peut encore sauver la planète. Cet écureuil, c'est Mr. Nuts, le sympathique rongeur à casquette, capable de bondir comme un cabri et de se débarrasser de ses ennemis d'un coup de queue. Avant d'arriver au pôle Nord, notre héros devra traverser une demi-douzaine de niveaux aux décors variés. Forêt, cuisine, volcan, nuages, de la glace et une fête foraine sont au menu du jour. Vos ennemis sont nombreux, les monstres superbes et remarquablement bien animés. Les décors recèlent eux aussi de terribles pièges tels que ces fosses garnies de pics. Le niveau de difficulté, lui, est remarquablement bien dosé. Les premiers niveaux permettent de se familiariser avec les commandes. Les choses se compliquent ensuite tout doucement pour finir par offrir aux habitués des jeux de plateforme un challenge à leur mesure. Un gros monstre vous attend bien sûr à la fin de chaque niveau. Admirez la couleur et les tailles de cette araignée. On la croirait tout droit sortie d'un dessin animé de Walt Disney. Considéré par le magazine Console Plus comme le meilleur jeu de plateforme sur Super Nintendo, Mr. Nuts a en effet tous les atouts de son côté. Une jouabilité excellente, des niveaux vastes et variés, d'excellentes musiques, mais surtout des graphismes d'une incroyable beauté dont la finesse des couleurs égale celle d'un véritable dessin animé. Si vous ne devez acheter qu'un jeu de plateforme pour Noël, ce sera celui-là, notre note, 19 sur 20. Console Plus d'or de la meilleure animation était en lice Aladdin de Virgin Disney Software sur Mega Drive, Flashback de Delphine US Gold sur Mega Drive et Starwing de Nintendo sur Super Nintendo.
Et le vainqueur est Starwing de Nintendo sur Super Nintendo.
Les fans de la Super Nintendo attendaient ça depuis longtemps et voilà que Nintendo nous offre enfin la version française de Star Fox qui du coup se retrouve appelée Starwing. Pour fêter son arrivée en France, Fox, le seul renard au monde capable de piloter un vaisseau spatial, s'attaquera à nos plus grands monuments nationaux. La Tour Eiffel, l'Arche de la Défense, et paf, une colonne de Buren. Aïe, 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 ça va mal finir. Oula, tiens, qu'est-ce que je disais? Bon allez, trêve de plaisanterie, notre héros aura bien sûr affaire à des hordes d'aliens déchaînés et devra livrer bataille aussi bien sur Terre que dans l'espace. Le nouveau processeur Super FX permet d'afficher de superbes graphismes en 3D dotés d'une animation époustouflante, du jamais vu sur Super Nintendo et sans doute le jeu le plus marquant de l'année. Nos testeurs enthousiastes ont donné à Starwing la note de 19,999 points sur 20 et encore en note en vache.
Jeu le plus fun.
Bomberman 94 de Hudson Soft sur PC Engine. Super Bomberman de Hudson Soft Sony sur Super Nintendo. Et Tetris 2 plus Bombliss de Bulletproof Software sur Super Nintendo. Super Bomberman de Hudson Soft Sony. Bomberman est un tout petit jeu tout simple mais passionnant qui a fait la renommée de la console NEC. Et voilà que Hudson se décide enfin à l'adapter sur Super NES sous le nom de Super Bomberman.
Le principe est simple, vous dirigez à l'intérieur de labyrinthes de petits poseurs de bombes qui vont devoir trouver la sortie cachée derrière un des murs. Pour ce faire, nos apprentis terroristes sont armés de bombes qu'ils peuvent déposer où bon leur semble, à condition de s'écarter suffisamment pour ne pas être pris dans le souffle de l'explosion. Rien que de très banal, si ce n'est qu'il est possible de jouer à deux et même à quatre simultanément, ce qui pimente nettement les parties. En effet, rien n'empêche les joueurs de conclure ensemble des alliances momentanées qu'il sera toujours temps de trahir à un moment ou à un autre, ce qui met toujours de l'ambiance. Le programme exploite bien sûr toutes les variations possibles en pimentant l'action avec de nombreux bonus, des trampolines qui permettent d'échapper aux explosions, ou des niveaux où les joueurs se retrouvent presque plongés dans le noir. Bref, un grand classique qui retrouve une nouvelle jeunesse grâce à son mode 4 joueurs, notre note 16 sur 20.
À présent, nous allons faire un petit tour du côté de notre coloc.
Un programme d'une société qui emploie 100 personnes, qui en fait travailler à peu près une autre centaine en intervenant extérieur. Juste comme exemple, depuis 3 mois, nous embauchons régulièrement entre 5 et 6 personnes tous les mois. Des graphistes, des musiciens, des programmeurs. Ma conviction personnelle, c'est que l'industrie de l'interactivité en général sera plus importante au 21e siècle que celle du cinéma aujourd'hui. Et de façon claire, c'est plus qu'une passerelle que vous citiez tout à l'heure, c'est une véritable révolution, une nouvelle dimension génératrice de beaucoup d'emplois de haut niveau. Et souvent, on ne le dit pas assez, en France, nous avons les meilleurs programmeurs du monde. Les meilleurs programmeurs et une souche culturelle absolument exceptionnelle d'histoire, d'idées, qu'on nous pille régulièrement. Et c'est pas un hasard s'il y a un grand cinéma français, c'est pas un hasard s'il y a une grande bande dessinée française. Il y a des structures narratives. Nous avons la chance d'avoir une grande culture mathématique qui a débouché sur des talents informatiques très précis et très clairs, qu'on nous vole d'ailleurs régulièrement, soyons bien clairs. J'ai moi-même de nombreux programmeurs qui souvent sont tentés par l'aventure américaine ou japonaise. Heureusement, ils ont quelquefois le mal du pays, ils reviennent. Il faut qu'on les encourage à continuer. Il faut qu'il existe des structures industrielles et également que le gouvernement s'y intéresse un petit peu.
Nous, actuellement, nous avons à peu près 25 titres en développement sur compact disque interactif en France. Et quand on sait que chaque titre fait travailler 20 ou 30 personnes, c'est entre 500 et 1000 personnes actuellement avec des créateurs. Et ces créateurs sont de très haut niveau. Je veux dire, quand on voit les titres que nous avons produits à partir de France, ce sont des titres de très très haut niveau. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui sont inquiets sur la qualité de la française. Simplement, je pense qu'il faut qu'on organise cette création maintenant, pendant qu'il est encore temps. L'industrie des jeux vidéo est une industrie qui débute. Personne n'a dans le monde de véritable avantage sur ce que nous avons en France. Nous avons de très très bons créateurs, de très très bons graphistes, de très très bons conteurs d'histoire. Et si cette profession s'organise, si les pouvoirs publics aussi l'aident pendant qu'il est encore temps, eh bien je crois que l'industrie française peut être tout à fait au premier plan et on ne sera pas obligé de faire des batailles pour préserver l'exception culturelle française dans 10 ou 15 ou 20 ans. L'exception culturelle française peut être aux avant-postes dans le monde et nous avons les talents pour le faire. Attendons pas trop tard pour défendre cette industrie.
Et nous retrouvons un candidat senior, un des rares candidats seniors qui ait franchi des éliminatoires diaboliques. Nous retrouvons Thomas Ormond que je vous demande d'encourager. Vas-y Thomas, tu lances le jeu.
Les choses sérieuses vont commencer.
Aïe. Non, c'est les boules vertes Thomas, les boules vertes. Wow, presque. Allez Thomas, vas-y.
Vas-y Thomas. Vas-y Thomas, allez, allez Thomas, allez Thomas. Oh là là, vous voyez, ouais, elle arrive, elle est bien, elle est mort.
Oh, de justesse, il ne faut pas les éviter, il faut les récupérer.
Pas une seule.
Tu n'es pas perdu, il reste encore des corridors assez redoutables. Le jeu c'est donc Kepler sur CDI, il nous a, quelle limite. Est-ce qu'une nouvelle... Oui, il envoie à gauche, en bas, un peu plus haut, un peu plus haut. Bravo! C'est pire que les deux de l'île. Voilà. Attention, où est la prochaine?
peut-être le guider. Ah, en bas. Non, trop tard. Ah, c'était bien vu pourtant.
Oui.
Non.
Au revoir.
Aïe.
Au revoir.
Oh là là. Alors, le but de ce jeu, c'est de cogner dans le maximum d'obstacles. Et je voudrais qu'on applaudisse Thomas qui vient de faire une performance absolument remarquable en percutant quasiment tous les obstacles. Le résultat, mais il atteint quand même un temple et son score va s'afficher. 20 points d'énergie, 24 shots, 2 pulsars quand même. On applaudit Thomas Ormond. Je pense, Thomas, que tu es bien placé pour la finale et pour remporter le téléviseur 16/9 et le compact disque interactif. On enchaîne avec le console plus d'or du meilleur shoot them up.
Meilleur shoot them up. Lord of Thunder de Hudson Soft sur PC Engine CD-ROM, Pop and Twin Bee de Konami sur Super Nintendo et Starwing de Nintendo sur Super Nintendo.
Et le vainqueur est Starwing de Nintendo sur Super Nintendo.
Vous êtes nombreux à demander comment on peut accéder au Black Hole dans Starwing de Nintendo sur Super NES. Pas de problème, il suffit de vous rendre dans la zone astéroïde du niveau 1. Vous allez vous retrouver face à 3 barres d'astéroïdes dont vous détruirez les 2 premières en tirant au centre. Vous ferez la même chose avec la 3e, mais en tirant au dernier moment, ce qui fera apparaître un autre astéroïde avec une tête. Rentrez dedans et vous voilà dans le Black Hole.
Console plus d'or du meilleur graphisme.
Notre jury a retenu Aladdin de Virgin Disney Software sur Mega Drive, Mr. Nuts de Océan sur Super Nintendo et Pop and Twin Bee de Konami sur Super Nintendo.
Et le vainqueur est
Aladdin de Virgin Disney Software sur Mega Drive. Ian Mefeyas est responsable pour tous les développements consoles de Virgin en Europe. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de Aladdin. Hello Ian.
Bonjour.
What is the purpose?
De quoi parle Aladdin?
The purpose of the game follows the story.
Le scénario du jeu suit de très près l'histoire du film. Le joueur incarne Aladdin et doit essayer de survivre à travers le jeu et se battre avec le diabolique Jaffa. S'il réussit, il emportera l'amour de la princesse, puis s'en ira sur fond de soleil couchant.
Quel genre d'ennemis va-t-il rencontrer?
Il rencontre toutes sortes d'ennemis, des acolytes aux ordres de Jaffa tels que des squelettes qui explosent. Il y a des pics qui sortent des murs, une prison de laquelle il doit s'échapper en essayant d'éviter des blocs de pierre qui se balancent. Plein d'ennemis.
Combien y a-t-il de niveaux dans le jeu?
12.
C'est la première fois que l'on a de si beaux graphiques sur Mega Drive. Comment avez-vous fait?
We were very, very fortunate in that we had Disney's help on this. We had the actual artists.
Nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons eu l'aide de Disney. Ce sont les animateurs du film de Disney qui ont fait l'animation pour nous dans le jeu. Ainsi, on ne peut pas faire la différence entre les dessins du jeu et ceux du film. Et je pense que c'est la première fois que ça arrive dans un jeu vidéo.
Vous avez apporté quelques dessins avec vous.
Les quelques dessins que nous avons sont ceux de Disney. Voici le diabolique Jaffa.
Yeah. Here we have the merchant.
Yes. Là, le marchand. Un bonhomme qui, en ouvrant son manteau, fait apparaître un étalage de marché où Aladdin peut acheter un jeu ou une vie supplémentaire. Là, vous avez le gentil chameau. Il porte plein d'armes, des armes que gagne Aladdin au cours du jeu. Et quand Aladdin saute sur son dos, il pousse un cri et crache une pomme qui tue l'ennemi qui approche.
Now here we have the evil basket.
Puis là, vous avez le méchant panier qui ressemble à un gentil panier, à la seule exception qu'il a des yeux qui sortent des orbites. Il se déplace en rampant et quand il attrape Aladdin, il lui vole tous les bijoux qu'il a gagnés pendant le jeu.
Once you've done this, étape suivante, l'animation.
Right.
Oui, dans un premier temps, on reprend les contours des dessins, puis on les digitalise et on crée ensuite tous les dessins intermédiaires. Voilà comment naît Aladdin, puis il est incorporé au jeu.
Voici l'animation d'Aladdin.
Oui, Aladdin en train de courir.
Comment sont faits les décors?
Les décors. Eh bien, quand l'animation est faite, nous faisons appel à deux sortes de dessinateurs. Ceux qui s'occupent de l'animation et ceux qui s'occupent des décors. Ainsi, les décors sont dessinés en même temps que l'animation. Voici le dernier niveau sur un tiers de la page. Et chacun de ces petits carrés sur l'écran représente le niveau du jeu. Celui-là, niveau 1, niveau 2, niveau 3.
Combien de personnes ont travaillé sur ce jeu?
C'est difficile de chiffrer de manière précise, je dirais autour de 50-60 personnes.
Combien de temps?
4 mois et demi de programmation, 6 mois en comptant la préparation de l'histoire.
Saviez-vous dès le début que c'était un si beau jeu?
One of the things we found is if you storyboard the game correctly, yes, you will end up with a good game.
On était sûr qu'en suivant le storyboard à la lettre, on éviterait toutes les erreurs.
Quelle console?
Mega Drive.
Quand? When?
Novembre. Le graphisme des jeux vidéo est une invention tout à fait particulière. C'est ça que j'admire profondément là-dedans, c'est que ça ne ressemble à rien de ce qui a pu se faire, ni dans la bande dessinée, ni dans le dessin animé. C'est tout neuf.
Console plus d'or, télépoche.
Le vainqueur est... Echo de Dolphin de Sega sur Mega CD 2.
Jouer à Echo the Dolphin de Sega sur Mega CD, c'est un peu comme plonger le nez dans un aquarium. En effet, ce jeu étrange ne ressemble à aucun autre et gravite à mille années-lumière des shoot'em up pleins de violence auxquels nous avaient jusqu'à présent habitués les consoles. Ici, pas de guerriers musclés, de soldats armés jusqu'aux dents ou de ninjas mutants. Vous incarnez un gentil dauphin qui coule des jours heureux dans un superbe lagon. Malheureusement, un terrible cataclysme va bientôt réduire cet océan de bonheur à néant en détruisant la quasi-totalité de la faune aquatique. Tout au long du jeu, vous allez devoir essayer de comprendre l'origine du fléau et tenter de ramener la vie dans votre univers. L'animation du dauphin est éblouissante. Les bruitages sont eux aussi très impressionnants. Notre héros est très à l'aise sous l'eau, mais il est aussi capable de sauter par-dessus les récifs de coraux pour atteindre d'autres bassins. Il a besoin aussi de remonter à la surface de temps en temps pour respirer, mais dans les grottes sous-marines, vous trouverez des poches d'air qui vous permettront de refaire le plein d'oxygène. Pour regagner un peu d'énergie, vous dévorerez de délicieux poissons multicolores. Echo peut bien sûr utiliser son sonar pour entrer en communication avec les autres dauphins, mais aussi pour obtenir un éco-radar des lieux qui l'entourent, ce qui vous permettra de vous repérer plus facilement. Vous pourrez utiliser les éléments du décor comme des coquillages et vous découvrirez sous l'eau des cristaux au pouvoir étrange capables de vous rendre invincible quelques instants, de vous fournir de précieuses informations ou de déclencher l'ouverture de certains passages.
Bottlenose dolphins are sturdy animals that grow to an average length of about 9 feet and weigh about 500 pounds.
Cette version CD propose 5 niveaux de plus que l'original, ainsi qu'une poignée de séquences filmées au cours desquelles vous pourrez voir des bandes de dauphins s'ébattre joyeusement dans la mer. Echo the Dolphin est une goutte d'eau perdue au milieu d'un océan de shoot'em up et de jeux de baston, un jeu original et incroyablement reposant, le grand bleu sur console. Notre note, 18 sur 20.
Il reste deux prix à remettre, les Micro Kids d'or. Le premier récompensera le meilleur jeu toutes catégories confondues sur micro-ordinateur. Le second récompensera le meilleur jeu toutes catégories confondues sur console. Avant de les décerner, un bref rappel de ce qui vous reste à découvrir pour cette première nuit des jeux vidéo, donc les Micro Kids d'or bien sûr, quelques extraits de Micro Kids, un clip sur le cinéma et les jeux vidéo, et deux testeurs de jeux un petit peu spéciaux. Et surtout, bien sûr, des démos qui, pour la première fois dans l'histoire de MicroKids, seront présentées en intégralité. Vous savez que d'habitude, on présente les démos en tout petit bout sur le générique de fin, et donc on n'a que 30 secondes. Quant à nos participants à notre colloque, où en sont-ils ?
A-t-on besoin du gouvernement pour nous aider ? Pour ma part et pour Cryo, nous avons trouvé des solutions qui sont les moins pires, c'est-à-dire on a trouvé l'argent à l'extérieur, notamment dans des entreprises américaines, des grands éditeurs qui développent actuellement 100% de la production des jeux que nous réalisons. Actuellement, il y a 11 jeux en cours de développement simultanément et il y a entre 70 et 100 personnes tous développeurs qui travaillent sur ces produits. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une prise de conscience qui est extrêmement importante, c'est que le jeu vidéo, l'interactivité, stimule la créativité des adolescents. Contrairement à un enseignement un petit peu ancien, enfin je veux pas taper sur l'éducation classique, qui forme des gens pour vendre par exemple des produits, des bons chefs de marketing, etc. Le jeu vidéo forge peut-être des gens qui vont être créatifs, et il faut des gens créatifs pour créer des produits de manière à ce que d'autres puissent les vendre, et autant qu'ils soient fabriqués en France plutôt que de vendre des produits qui viennent de l'étranger. Et je pense que cette génération du jeu vidéo qui est en train de monter est une génération créative. Et ça, c'est une surprise, et je vois tous les jours des gens qui ont des idées absolument géniales, des adolescents. On a parlé de Thierry Proto tout à l'heure, et j'applaudis des deux mains à ça.
La France a des créateurs de talent, la France a beaucoup d'idées, je crois qu'on a vu ce soir des gens qui sont responsables d'entreprises, qui gèrent leur entreprise, on a vu leur dynamisme. Il faut que nous, les industriels, nous les aidions. Je dis toujours qu'il faut qu'on leur donne les moyens de leurs rêves, le moyen de leurs idées. Et ce talent qui est réuni en France, plus le support de quelques grands industriels, et Philips tient absolument à être dans cette bataille-là, fait que cette bataille des jeux vidéo, cette bataille de la créativité-là, nous allons la gagner.
On retrouve le jeu Keter et on retrouve un candidat, il s'agit de Fabien. De Fabien qui est fin prêt. Fabien, tu es prêt?
Ouais.
Tu lances le jeu?
D'accord.
Ouais. Fabien fera-t-il mieux que les seniors ? Réponse dans quelques minutes. Attention. Ah, c'était limite. Je trouve qu'on pourrait encourager un petit peu Fabien aussi, hein, parce que il le mérite. Vas-y Fabien. Vas-y Fabien, méfie-toi. Il y a une boule verte, un pulsar qui apparaît, voilà. Un petit peu plus haut, un peu plus haut. Oui, très bien. Ouais, on transpire avec toi.
Ouais.
Un peu sur la droite, un peu plus haut. Oui, un slalom parfait. Je ne voudrais pas insister lourdement, mais... Oh là là, ouais, super. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis Thomas. Ouais, on peut le dire. Ouais, bravo!
Ouais, génial!
Bravo! J'ai l'impression que le téléviseur 16/9 et le compact disque interactif ne sont pas très loin. Le score va s'afficher.
Oui!
60 points d'énergie, 15 chocs et 4 pulsars. Oh, très très bon!
Génial.
Bravo! Bravo Fabien, on te retrouve tout à l'heure. À mon avis, tu es très très bien placé. Ils ont été décernés par les membres du top jeux vidéo Micro Kids. Voici les Micro Kids d'or. Qui sont les membres du top jeux vidéo Micro Kids? Eh bien, tout simplement, 1000 correspondants répartis dans toute la France et qui, toutes les semaines, nous envoient le classement de leurs jeux favoris. Ce qui nous permet d'avoir un top jeu vidéo tout à fait fiable et précis. Avant de découvrir les deux meilleurs jeux de l'année, nous avons voulu rassembler quelques extraits de Micro Kids.
Jimmy Connors, c'est le premier jeu de tennis sur Super Nintendo qui permet à 4 joueurs de jouer simultanément. Ce jeu a été développé par une compagnie qui s'appelle Blue Byte, qui est une compagnie allemande, et il est sorti sous le label Ubisoft.
Thomas, pouvez-vous nous expliquer cela?
C'est assez simple. L'idée du programme vient d'une société allemande, mais comme le marché est dominé par les Anglais et qu'ils voulaient créer un jeu européen et même à dimension internationale, ils sont venus très normalement nous contacter pour que nous coopérions.
Combien de personnes ont travaillé sur ce jeu?
En fait, un programmeur, un graphiste et un chef de projet interne à la société, plus 3 freelances, 2 musiciens et un graphiste.
Vous avez aussi développé Greek Roots 2 sur l'Amiga.
vous a-t-il inspiré pour faire Jimmy Connors? Et est-il plus facile de programmer sur Amiga ou sur Super Nintendo?
D'abord, sur Super Nintendo, vous n'avez pas à vous occuper des sprites, car ils sont gérés par la machine. Mais la console est plus lente que l'Amiga, alors vous devez passer du temps à résoudre des problèmes de vitesse.
Est-il facile de gérer 4 joueurs en même temps?
Ou en fait, le premier problème, c'est que je n'ai que deux mains, et il était difficile de manier seules 4 manettes. Et le point important était d'avoir cet adaptateur qui permet de connecter 4 manettes sur la Super NES, et donc d'avoir 4 joueurs.
Quelle a été la contribution de Jimmy Connors dans votre jeu?
C'est un peu plus qu'un nom, mais nous n'avons jamais rencontré Jimmy. Il a approuvé le jeu et nous avons insisté sur ses talents de joueur dans le programme. Tout le monde qui le connaît ne reconnaît pas son style.
Pensez-vous que les softs de tennis doivent être plus simulation ou plus arcade?
Je pense que la question ne se pose pas ainsi. Nous avons privilégié le côté simulation parce que le chef de projet jouait depuis très longtemps au tennis et voulait donc une simulation plutôt qu'un jeu d'arcade.
Ce jeu est un succès sur Super Nintendo. Avez-vous prévu une version sur Mega Drive?
Non, pas encore.
Pourquoi?
Nous pensons que la Nintendo sera beaucoup plus populaire dans les prochaines années en Europe. Et nous n'envisageons pas une version Mega Drive.
Est-il plus facile de créer une simulation de tennis comme Jimmy Connors ou plutôt un jeu d'arcade ou un beat'em all?
D'un côté, une simulation de sport est plus facile car il y a moins de sprites sur l'écran. Mais en sport, vous devez programmer les caractéristiques des joueurs, les particularités de chaque tournoi.
Quels sont les grands atouts de ce jeu par rapport aux autres tennis?
D'abord, je crois que c'est que tous ceux qui ont travaillé sur le jeu étaient des joueurs de tennis et qu'on ne s'est pas laissé aller à des rotations et toutes sortes d'autres effets spéciaux pour rester juste concentré sur la qualité du jeu.
Par exemple,
selon le jeu que vous choisissez, vous sentez plus ou moins les coups, les slices par exemple, les lobes, la direction de la balle, tous les coups que vous pouvez mettre. C'est là que se situent les vraies différences d'un programme à l'autre.
La gomme, remplissage de surface, hein, tout simple. Aérographe. Hein. On va charger un petit dessin. Ce dessin est quasiment fini. On veut quand même vérifier les moindres détails. On utilise une loupe plein écran, temps réel. Je m'appelle Jean-Luc Antoine, je suis de l'EPITA. C'est une école pour l'informatique et les techniques avancées à Paris. Je suis donc en InfoSP, c'est Bac plus 2, et je présente un logiciel SoftKeeper qui permet donc la création de dessins, retouches, etc., un logiciel de dessin normal, couplé à un convertisseur vidéotexte qui permet le traitement, les transformations sur Minitel.
Bienvenue à SoftKeeper, le premier festival des jeunes auteurs de logiciels et de produits informatiques. Ce festival, organisé par le lycée Pilote Innovant du Futuroscope et par le CRDP Poitou-Charentes, a accueilli 69 jeunes de moins de 25 ans. Au fait, pourquoi ce festival?
Bien, l'origine du festival, c'est des élèves du lycée qui avaient fait des produits et qu'on avait trouvé intéressants et on les a aidés à en faire des produits commerciaux. Et après ça, on s'est dit qu'il y avait sûrement d'autres jeunes en France qui faisaient des produits commercialisables et qu'il fallait les mettre en contact avec des professionnels et faire voir au public la qualité de leur travail.
600 demandes de candidature, 300 reçues et analysées par les organisateurs et 70 candidats retenus.
Et alors sur quels critères avons-nous choisi? Plusieurs, des critères de qualité de la documentation qui nous a été envoyée, parce que certains dossiers comportaient des logiciels de démonstration, d'autres n'étaient que sur papier. Donc par conséquent, par exemple, des logiciels ont été tout de suite éliminés lorsque nous avons trouvé des disquettes qui ne fonctionnaient pas bien. Ensuite, au niveau des logiciels papier, nous avons beaucoup insisté sur la qualité de l'information qui nous était apportée dedans, estimant que les élèves qui allaient présenter des logiciels ici devaient avoir une attitude relativement professionnelle s'ils voulaient entrer en contact avec les éditeurs. Nous avions mis des critères très stricts, c'est-à-dire que nous limitions à 25 ans et un niveau d'études inférieur à Bac plus 2. C'est-à-dire que nous avons des élèves qui, dans le cadre d'écoles, peuvent peut-être avoir 9-10 ans. Et nous avons également des jeunes qui vont jusqu'à 23 ans.
Ce petit peu, en fait, c'est pour nous un moyen de rencontrer beaucoup de gens, entre autres des éditeurs, des personnes, des officiels, et ça nous permet de nous faire connaître, de voir si en fait ce qu'on fait plaît.
Dingue de micro depuis leur plus jeune âge, ces jeunes de 15 à 25 ans nourrissent pour la plupart le même rêve, fabriquer un logiciel génial et pourquoi pas devenir le maître de l'univers informatique, comme certains petits prodiges américains qui ont fait fortune en pianotant le soir après l'école sur leur computer.
Il ne faut pas se leurrer, les fortunes sont relativement rares, mais il suffit de trouver la bonne idée et de trouver les gens qui sont capables d'amener cette bonne idée aux yeux du grand public.
Succès et gloire, pour certains le chemin risque d'être long, sauf qui peut, le festival des petits génies informatiques entend bien être la première étape.
Thierry Proto a 16 ans, c'est un auteur de démos, il s'est fait connaître grâce à Equinox, une première démo, et il vient de mettre la dernière main à Revenge, sa dernière démo. Comment est-ce qu'on devient auteur de démos?
Par le plus grand des hasards, en réalité je me suis procuré 3D Studio, un programme d'animation,
oui.
Et j'ai voulu le maîtriser quand j'en avais l'occasion, pour faire comme les professionnels et réaliser des films, des animations fantastiques, spectaculaires.
Tu travailles
sur PC.
Sur PC uniquement. Combien de temps est-ce que tu as mis pour maîtriser 3D Studio? Parce que c'est un logiciel très costaud.
Pour commencer, un mois. Mais 3D Studio est très complexe, donc on ne le maîtrise jamais à 100%.
Le PC est la meilleure machine pour faire des démos en ce moment?
Non. Ce sont les Silicon Graphics, des stations graphiques très puissantes, très onéreuses.
Ça coûte combien une station?
En moyenne 200 000 francs.
Et un bon PC pour faire une bonne démo, il faut compter combien?
Au maximum 15 000 francs.
Tu as suivi une formation graphique?
Non.
Rien
sur le tas. Enfin, disons que depuis que je deviens un petit peu célèbre, je rencontre des professionnels et j'apprends avec eux, mais à la base, on est tout.
Combien de temps il faut pour créer une démo comme Revenge?
Revenge, j'ai travaillé essentiellement en août dessus.
Oui.
En juillet, je travaillais dans une compagnie, donc je n'ai pas eu le temps de bosser à 100%.
Oui.
Je bossais juste le soir. Mais en août, j'ai tout le temps parce que nécessaire. Donc, pour Revenge, je dirais approximativement un mois et demi.
Et comment ça se passe?
On élabore d'abord un storyboard,
oui.
On modélise des objets,
oui.
Et après on passe aux séquences d'animation.
Qu'est-ce que c'est que la modélisation?
C'est entrer dans un ordinateur les coordonnées 3D des objets.
Il faut combien de temps entre la partie écriture de la démo et la partie calcul? C'est 50-50, 70-30?
En exagérant, je dirais 10-90. Parce que le calcul des séquences sur PC est très très long, car ce sont des calculs vraiment importants. Le PC n'est pas conçu pour ça à l'origine.
Oui.
Et on est approximativement à 2 secondes d'animation, nécessite 3-4 heures de calcul sans problème.
Tes sources d'inspiration?
Les bandes dessinées, les autres jeux ou alors les vidéos bien sûr.
Quel type de jeu, quelle vidéo?
Science-fiction essentiellement, donc je dirais Wing Commander ou alors Star Wars.
Est-ce que tu as reçu des propositions d'éditeurs suite à ton travail?
Oui, effectivement, les maisons d'édition ont été assez surprises par ce que je faisais et ils sont avérés assez intéressés et pour l'instant, sans plus.
Tu es en contact avec l'une d'entre elles en particulier?
Oui, Trio, du moins.
Trio. Comment ça s'est passé? C'est toi qui es allé les voir ou c'est eux qui sont venus te chercher?
J'ai été les voir.
Oui.
Ils ont été vraiment surpris par ce que je faisais,
oui.
Et intéressés. Donc depuis, on garde contact et je vais les voir régulièrement.
Alors, grande question, comment est-ce qu'on fait pour se procurer une démo de Thierry Proto ou une démo en général d'ailleurs?
La façon la plus simple, c'est de se connecter sur les BBS.
Oui.
Ce sont des réseaux informatiques d'ordinateurs qui utilisent le téléphone tout bêtement et un modem.
Oui.
Pour se connecter, il faut avoir un ordinateur et un modem tout bêtement.
D'accord, alors j'ai un PC, j'ai un modem, je me connecte, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je rentre en contact avec un BBS?
Il faut avoir le numéro de téléphone de BBS, et ça c'est le problème. Pour l'avoir, il faut téléphoner à des magazines spécialisés, comme par exemple Silk.
Oui. Et on trouve ta démo sur les BBS?
Des bouffes, car elle est très 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 lourde, et tout ce que je soutenir sur les BBS, c'est assez difficile.
Quand tu dis très lourde?
90 mégas.
L'avenir pour toi?
L'avenir, une nouvelle démo.
Oui.
Peut-être un jeu, je ne sais pas.
Micro Kids d'or, catégorie micro. Je vais demander à Mireille Chalvon. Mireille Chalvon, qui est là, de nous rejoindre. Mireille Chalvon, qui est responsable de la jeunesse sur France Télévisions. Bonjour.
J'arrive d'une autre planète. Depuis une heure et demie que je suis là, je n'ai rien compris. J'ai fait des études à la Sorbonne et, par exemple, Pulsar, on voit Pulsar 2, note 2, vous applaudissez, vous trouvez ça bien, mais nous, quand on avait 2, tout le monde nous disait que c'était nul, que c'était très mauvais. Alors, c'est pour vous dire que je suis vraiment complètement débordée par ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve ça hyper sympathique, je trouve qu'il y a une ambiance formidable. Je regarde Micro Kid naturellement tous les dimanches. Ça m'empêche pas que quand j'ai commencé à jouer sur Zelda, j'ai jamais trouvé le deuxième monde. Et puis quand j'ai commencé avec Mario Bros, je suis tombée dans le trou tout de suite. Alors tout le monde m'a dit t'es nul. Alors du coup les jeux vidéo, vraiment c'est un domaine que je connais pas du tout. Mais en même temps, je pense qu'on peut pas s'intéresser aux enfants à l'heure actuelle sans faire des passerelles entre la télévision et le jeu vidéo. Il y a une raison, d'ailleurs, une raison vraiment importante, c'est que les enfants, ils regardent plus la télé, ils sont tous sur leur console vidéo. Donc si on veut vraiment les récupérer, il faut parler des jeux vidéo à la télé.
Micro Kids d'or sur micro. Day of the Tentacle de LucasArts sur PC et PC CD-ROM. Lens of Lore de Westwood sur PC. X-Wing de LucasArts sur PC. Et le gagnant est...
Lands of Lore de Westwood sur PC commence par une des plus jolies séquences d'introduction qu'on ait jamais vues. En plus de ses superbes graphismes et de bruitages spectaculaires, celle-ci contient en effet des voix digitalisées très impressionnantes. Le thème du jeu ? Une méchante sorcière a réussi à mettre la main sur une bague magique qui lui permet de se transformer à volonté en superbe jeune fille ou en affreux corbeau. À l'aide de cette bague et de ses pouvoirs magiques, l'immonde créature va tenter d'asservir le royaume. Et bien entendu, votre groupe d'aventuriers devra l'en empêcher. On retrouve bien sûr dans Lands of Lore tous les ingrédients du jeu de rôle à la Dungeon Master, mais la beauté des graphismes et la qualité de la bande sonore en font un jeu beaucoup plus passionnant que la plupart de ses concurrents. Les décors sont très fouillés et vos adversaires sont pour la plupart hideux à souhait. L'aventure est de plus entrecoupée de superbes séquences animées telles que celle-ci, que même les aventuriers les plus aguerris ne sont pas prêts d'oublier. Et enfin, une bonne nouvelle pour les anglophobes, une version entièrement traduite en français devrait être bientôt disponible. En conclusion, pour sa beauté, sa jouabilité et sa profondeur de jeu, Lands of Lore reçoit la note de 17 sur 20.
Qui va être sacré meilleur jeu sur console? Pour prolonger un petit peu le suspense, retour au championnat et retour à nos candidats. À notre candidat, on retrouve Christophe. Tu es prêt? Tu lances le jeu. Toujours le CDI. Oula. Visiblement, tout le monde est très concentré là. Ça va très très vite. Même Bruno Bonnel, qui connaît pourtant bien Kiefer, en reste. Ah, tout est Bobby. Eh oui, c'est un niveau très difficile. Finalement, les jeux sur CDI, c'est pas si facile que ça. 42 secondes, notre héros a tenu 42 secondes et a subi 15 chocs et il n'a récupéré aucun pulsar au grand dam de Mireille Chalvon. Eh oui, pas de pulsar pour cette séquence. C'est dramatique. On enchaîne avec le Micro Kids d'or console. Il y avait Aladdin, il y avait Street Fighter de Turbo, Super Mario Kart, Mortal Kombat et Flashback. Nous avons attendu les derniers votes de nos correspondants du top jeux vidéo. Voici le verdict.
J'imagine que la grande question que tous les amateurs de jeux de combat se posent, c'est que vaut Mortal Kombat face à Street Fighter 2 et surtout face à Street Fighter 2 Turbo. Pour les possesseurs de Mega Drive, pas de problème puisque Street Fighter 2 n'existe pas encore sur cette machine, donc à ce moment-là, Mortal Kombat est vraiment le choix de Noël. En revanche, pour les possesseurs de Super Nintendo, la question se pose. Pour avoir la réponse, nous avons demandé à nos labo-testeurs de comparer Mortal Kombat et Street Fighter 2 Turbo.
C'est un comparatif relativement difficile à faire car au premier abord, on pourrait croire que ce sont deux jeux identiques. Mais en s'y plongeant beaucoup plus, on peut voir certaines différences. Comme au niveau des personnages que l'on peut prendre, à Street Fighter, on peut prendre 12 personnages, tandis qu'à Mortal Kombat, on peut qu'en prendre 7. Au niveau des coups, Street Fighter dispose d'une plus grande panoplie de coups, tandis que Mortal Kombat, chaque sprite de bonhomme, quand il donne un point simple, est identique. Au niveau des boutons, Street Fighter 2 Turbo dispose de 6 boutons, alors que Mortal Kombat dispose de 5 boutons. La différence entre les deux, c'est que Street Fighter 2 Turbo dispose d'un point faible, un point moyen, un point fort, un coup de pied faible, un coup de pied moyen, un coup de pied fort, et Mortal Kombat dispose de un point faible, un point fort, un coup de pied faible, un coup de pied fort. Plus une innovation, c'est la touche bloc, qui permet de se protéger, différemment à Street Fighter 2 où il fallait appuyer vers l'arrière. Au niveau des coups spéciaux, Street Fighter 2 dispose de, Turbo dispose de nouveaux coups, comme Chun-Li qui peut tirer des boules de feu, puisque Mortal Kombat est vraiment identique à la version arcade, les digits sont exactement pareils.
Il y a encore une chose excellente dans Mortal Kombat, qui sont les fatalities. Une fois que, des fois quand le personnage que l'on abat à la fin du round reste debout, on peut le finir avec une prise très spéciale.
Les graphismes de Street Fighter Turbo sont très dessins animés, tandis que les graphismes de Mortal Kombat sont très digits. Ce qui est vraiment un avantage, c'est un pas vers la nouvelle génération de jeux vidéo qui sont beaucoup plus réalistes. Si vous aimez les jeux où c'est vraiment de la grosse baston, où vous voulez vraiment vous éclater, un jeu vraiment bien fun, prenez Street Fighter, parce que si vous voulez des combats réalistes et bien faits, prenez Mortal Kombat.
Et le gagnant de ce prix Micro Kids, ce Micro Kids d'or, c'est Mortal Kombat sur Super Nintendo et Mega Drive. Et maintenant, nous allons découvrir, dans très peu de temps, le vainqueur de notre grand concours. Il est aux commandes. Tu es prêt? Tu lances le jeu? Pour ne pas déconcentrer. Héros. Oui. Mal, le temps va s'afficher. Combien de temps est-ce que Fabien a réussi à tenir? Christophe avait tenu 42 secondes, Fabien a tenu 67 secondes, c'est donc Fabien qui remporte la victoire. Je demande à Jean-Claude Larue.
Je suis vachement content, et puis j'adore Micro Kids, et puis aussi Delphine et toi.
Bravo, merci, et Jean-Claude Larue nous rejoint pour remettre les prix. Jean-Claude Larue est-il toujours avec nous? Oui, il est là, fidèle au poste. Tu restes là, Fabien. Tu viens nous rejoindre devant le micro, là, hop, tu fais le tour, voilà, tu laisses ton casque.
Moi, je veux juste dire une chose, les jeux vidéo, c'est formidable, on l'a vu ce soir, mais croyez-moi, quand on les voit en 16/9, c'est encore plus formidable.
Donc, tu restes, viens, vous venez avec nous, vous restez là, Jean-Claude, vous venez me rejoindre, vous restez avec nous pour la présentation d'un jeu un petit peu particulier. Ce sont deux aficionados du jeu vidéo qui ont une conception un petit peu personnelle des tests de jeux vidéo.
propose tout de suite une petite pause technologique sur votre toute nouvelle chaîne de télé, la télé Bubble. Et voici maintenant votre premier rang de vidéo. Je pense avoir fait le bon choix, car c'est le jeu sélectionné par un vrai jury de masseurs. Ah non, mais si, si, hein, il a remporté le tilt d'or du meilleur jeu de simulation. C'est un vrai super game sauve. Enfin, si j'ose dire. Il marche aussi bien sur Mega Grave que sur Nintendo. Enfin bref, tout pour s'éclater, quoi. Bon, ben c'est pas tout ça, comment ça marche le truc? Ah, voilà le mode d'emploi. Alors, tout d'abord, il faut entuber la télé. Enfin, si je veux dire. Et voilà, c'est parti! C'est parti! L'allumage, pas de problème, hein. Les microprocesseurs, l'électronique, la macro-informatique, tout ça, je connais. Eh ben, ça marche pas. C'est la batterie qui est à plat ou quoi? Oh, zut! Qu'est-ce qui court, mais t'es trompé de bouton. Et voilà, l'écran va s'animer. Oh, mais c'est Robot Touch! Oh là là! Oh non, je me suis trompée, c'est un monstre! Oh, mais tu me fais remonter, moi! Et tac! Alors là, sur ce coup, j'ai eu carrément saut, hein. Bon, alors maintenant, faut que je me méfie, sinon je vais rater mon passage à niveau. Ah bah oui, hein. Vous ai pas dit, c'est crucial, c'est bourré de petits assistants. Si j'ai bien compris, au niveau 2, ça devrait devenir très très costaud. Ah mais moi je connais des tips imparables. On peut gagner des temps bien finis. Ah mais attention, hein, à nos yeux c'est péril, hein. Mais qu'est-ce que c'est là, celui-là? Tac! Bon, alors là, faut que je mine la situation. Oh non, j'ai encore un autre méchant. Gremlin crevette. Oh, mais c'est une menace! Avec son laser! Et tac! Marre, vilain dinosaure! Ah, j'ai gagné! Je ressuscite! Enfin, si je veux dire! Bon, alors, il est mort ou il n'est pas mort? Ça y est, je suis enfin au niveau 2. Je devrais avoir un super sexe à pile. Ah si, si, hein? Ah non, mais c'est prouvé, c'est même écrit sur la boîte. Attention aux crises d'apile sexy, alors. Oh, j'ai un super héros qui se pointe au bar d'amour. Mais c'est qui me provoque? Oh, j'en ai la sphère de poule. Allez, oh, mon super marionnique. Oh non, oh non, c'est des bombardiers qui arrivent. Attention, mon amour. On va tenter le test quand même, hein. Ah oui, il y a écrit appuyer sur le bouton de droite. Ça y est. Oh là là, les yeux qui me serrent. Oh,
tu sais. Oh là là. Oh, j'en ai la sœur de poule. Si j'actionnais... Oh non, mon super-héros, t'en vas pas. Si j'appuyais sur le bouton rouge pour voir, ça va peut-être faire avancer les choses dans la bonne direction. Oh zut, j'ai fait disparaître mon héros. Oh là là, quelle émotion. Alors là, moi, je bats la samade, hein. Oh non, voilà les robots. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est un vrai jeu vidéo ce truc-là. Des monstres, des méchants. Et juste que ça commence à prendre une entournure un peu sentimentale, terminé, game over.
Voilà, la première nuit des jeux vidéo est terminée. On se retrouve dimanche matin sur France 3, bien sûr. Ne manquez pas nos démos. À dimanche matin, jouez bien. Bye bye. Bye. Bye.
90 vous a présenté la nuit des jeux vidéo.